Bonjour et bienvenue dans le podcast
493,
chers amis. Et oui, après l'ère Julot, l'ère Traz, je sais pas, j'en sais rien.
C'est une nouvelle ère Trazer.
En, ouais. Voilà. En tout cas, je vais essayer
de faire un kanji spécial pour annoncer
ces Traz. Nouveaux podcasts et bien avec mes chers compagnons à côté.
Donc, c'est nouveau, ça.
Le très roux Thomas.
Eh ouais.
À nos côtés, donc. Plus le très collectionneur Romain.
Oui.
Bonsoir. Et le très plumitif Plume, évidemment. Et Pouffy à la technique, comme toujours, qui assure comme une bête. Comme chacun sait, depuis des lustres et des lustres. Voilà, donc alors, au sommaire de ce podcast 493, beaucoup, beaucoup de choses, n'est-ce pas? C'était une semaine plutôt riche, comme chacun sait. Évidemment, il y aura trois thèmes principaux. La PAX East avec Borderlands et tous ces milliards de jeux annoncés. Dont le 3, évidemment, qui était un secret de Paul Chenal. N'est-ce pas? Ensuite, le deuxième thème, ce sera le Sega Fest avec plein d'annonces, dont notamment la Mega Drive Mini que tout le monde va acheter ici, évidemment, comme toujours.
Ou pas.
Ou pas, d'ailleurs.
Que tu vas nous acheter, en fait.
Exactement. Le troisième thème, c'est le test de la semaine hein, que Thomas a retourné dans tous les sens.
Eh ouais.
Yoshi Crafted World.
Sans penser que t'allais dire ce qu'il y a écrit sur le
conducteur. Non, j'allais pas dire Yoshi dans son froc, non. Parce que ça fait trop tiep. Et ensuite, évidemment, les rubriques habituelles, anniversaire, hors-jeu, etc. Vous en saurez plus tout à l'heure, évidemment. Alors, on commence bien sûr par le win et le fail de la semaine, n'est-ce pas?
N'est-ce pas? Mais c'est pas.
Tu regardes la
mauvaise personne. Exactement.
Oui, oui.
Non, mais j'ai un win et j'ai un fail en fait, c'est pour ça. Alors, toi, c'est le win, bien sûr.
Exactement.
C'est, alors, c'est quoi le win de la semaine, monsieur Plume?
Eh ben, c'est une belle histoire, le win
c'est
de la semaine. C'est une belle histoire
c'est
qui concerne.
C'est une belle romance ou pas?
Qui concerne Bethesda. C'est pas souvent hein, ces derniers temps qu'il y a eu une belle histoire concernant Bethesda. C'est l'histoire de Shirley Curie. Tu ne connais pas, évidemment.
Non, je la connais pas, j'avoue.
Tu l'as jamais rencontrée.
Non, même si je suis vieux, je la connais pas.
Eh bien, Shirley Curie, sache-le, c'est une joueuse de 82 ans qui s'est fait connaître sur YouTube en postant des vidéos d'elle en train de jouer à Skyrim.
Quelle classe.
Et elle a énormément de succès, elle a énormément d'abonnés. Il y a eu une pétition pour qu'elle soit carrément dans le prochain The Elder Scrolls de Bethesda qui avait été annoncé à l'E3 dernier. Et bah, tu sais quoi? Bah, c'est possible. Voilà, c'est possible aujourd'hui parce que pendant la PAX East, ils ont fait un panel. On peut voir Todd Howard d'ailleurs si vous êtes premium en train de discuter avec Shirley Curie. Et ils ont fait un panel durant lequel ils ont révélé qu'elle avait été modélisée. Ils l'ont fait venir dans les studios, ils l'ont modélisée avec un système de photogrammétrie qui permet d'avoir un rendu assez bluffant. Et donc elle sera un PNJ dans The Elder Scrolls 6, dont nous n'avons toujours pas la date, mais Todd Howard, lui, il la connaît.
Il la connaît. Mais on est sûr que c'est pas un poisson d'avril, en tout cas.
Non, c'était pas un poisson d'avril parce que je pense que tu ferais pas ce genre de blague à une dame de 82 ans.
Oui, c'est sûr. Sauf si elle est complice. Mais bon,
même
après,
si elle est complice,
pas.
Je pense que c'est pas rare que Bethesda fasse ce genre.
C'est un gentil
ce
geste.
Genre d'opération. Ouais. C'est un super geste.
Mais c'est une vraie youtubeuse en plus. Hein,
ah oui, complètement. Oui.
Question.
Eh non, mais elle a un succès. Elle a un succès fou. Ouais, cette dame de Virginie qui est grand-mère, arrière-grand-mère. Ouais,
C'est une vraie joueuse. Quoi. Ouais. C'est pas juste.
J'espère qu'elle sera en vie quand le jeu sortira.
Oh non, non,
non,
non.
Mais on sait pas quand
tu y penses, mais je
sais que les vieux vidéos ça rend jeune, donc t'inquiète pas.
Exactement, puis 82 ans c'est jeune encore.
Ouais.
Donc,
elle a l'air en super santé.
Je pense qu'elle est 10 fois plus en forme que nous tous ici. Hein, donc,
vous savez qu'on peut sortir, traverser la rue pour chercher un boulot et se faire renverser par une voiture. Donc,
ça, c'est pas
je souhaite évidemment pas.
Dans ce cas-là, tu peux le dire pour toutes les personnes qui jouent
bien sûr
qui sont sur Terre.
Exactement.
Genre, il y a 5 ans, est-ce qu'il sera là pour la sortie du jeu?
Exactement. Bon, en tout cas, c'est une belle histoire.
C'est une super histoire, c'est très très cool pour elle et effectivement. Quand elle sera dans, quand le jeu va sortir, on espère avoir sa réaction pour voir un petit peu ce qu'ils lui ont réservé. Oh non, stop.
PNJ. Tu vois que t'as pas pu t'en empêcher en fait.
Ah, tu m'as lancé, t'as ouvert les vannes et c'est parti.
Exactement. Bon bah c'est super pour ce win, c'est parfait. Maintenant le fail, Romain, évidemment.
Oui. Alors,
là, c'est moins drôle,
nettement,
comme toujours.
Nettement moins drôle.
Moi je vous siffle.
Le fail de cette semaine nous amène du côté de chez Mojang parce qu'une récente mise à jour de Minecraft a tout simplement supprimer toute mention de Notch, Marcus Persson, le créateur de
Bah pour le coup, son nom est Persson, là, c'est sûr.
Oui, voilà.
Bon, je l'ai fait, c'est bon, ça y est.
Totalement supprimé du jeu. Alors, on pourrait se demander pourquoi si on suit pas trop l'actualité du monsieur. Donc, on sait que Marcus Persson a vendu Mojang et Minecraft à Microsoft pour deux milliards de dollars. Donc, le monsieur va bien, enfin, en termes financiers.
Sur plusieurs générations.
On n'a pas à le plaindre. Mais on a l'impression qu'il s'ennuie un peu. Et donc, il passe beaucoup de temps sur Internet à éplucher des sites et des vidéos conspirationnistes. Et visiblement, pas mal de ces théories lui plaisent particulièrement. Et il n'hésite pas à le faire savoir. Donc, il partage sur Twitter souvent des trucs un peu limites. Donc, en gros, il cautionne et il valide certains complots.
Mmh. Et du coup, ça gêne Microsoft.
C'est ça gêne Microsoft. Et donc, je pense qu'il en supprimant toute mention de Notch du jeu. Et ils s'éloignent du personnage et comme ça ils évitent d'être associés contre leur
avis.
C'est
sulfureuse théorie.
Ouais, voilà, ils évitent d'être associés à ça parce qu'on sait que les trucs conspirationnistes, machin, tout ça, théorie du complot et autres, quand on est une société comme Microsoft, on essaye d'éviter ça comme la peste. Et ce qui est amusant, c'est que ces problèmes-là prédatent de la vente de Mojang parce que il y a une développeuse qui s'appelle Nathalie Clayton, qui travaillait au studio qui s'occupait des portages de Minecraft sur console, et expliquait du temps où il bossait là-dessus. À chaque fois que Notch faisait un tweet, genre il y avait un silence de mort dans le studio parce qu'ils savaient pas.
Ils avaient peur de ce qu'il allait
pu dire ou truc comme ça. Donc visiblement c'est une personnalité qui gênait chez Mojang et chez Microsoft depuis un moment. Mais donc là maintenant que des années ont passé depuis la revente, etc. Ils ont plus forcément besoin d'être liés à lui de près ou loin. Donc voilà. Ils ont définitivement tourné la page de Notch dans le jeu. Voilà le fail.
Adieu Notch. Semaine. Voilà exactement. Adieu Notch. Tu resteras jamais dans nos cœurs et dans Minecraft.
Ok.
Pas plus vraiment pour le coup.
Oui, certes. Alors, après ces wins et ces fails, évidemment, on va passer aux 10 ans sur Gameblog.
Eh ouais. Et avant ça,
Générique.
Voilà, alors il y a 10 ans sur Gameblog, qu'est-ce qui s'est passé?
Bah, tu le sais puisque t'étais là, Trace.
Exactement. Mais justement, je te le demande à toi.
T'étais déjà là et c'est toi qui nous régalais à l'époque avec tes news évidemment croustillantes.
Quelle est la news de Trace cette semaine?
Évidemment, parce qu'il y a des chiffres, donc il y a forcément des traits d'esprit, des sous-titres et des commentaires trasesques.
Sacré chiffre d'affaires.
Exactement.
Et on commence par un joli chiffre et un chiffre tout rond, puisque il y a 10 ans sur Gameblog, voilà.
Effectivement.
1 million au Japon.
C'est Traz qui nous parlait du premier million de la Xbox 360 au Japon. Premier et dernier en fait, puisque on célébrait là à ce moment-là le premier million d'unités vendues sur l'archipel. On sait que c'est très compliqué historiquement pour Microsoft de percer malgré leurs nombreuses tentatives de proposer des jeux adaptés un petit peu au public japonais. Et pour le coup, c'était la semaine où la Xbox 360 venait de passer le million d'exemplaires et elle n'atteindra malheureusement jamais le deuxième puisque la console a plafonné 1,6 million sur l'ensemble de son existence japonaise.
Ce qui est déjà énorme pour une console Xbox.
Ah oui. Avec le recul, c'est effectivement un joli score.
Quand on sait que la Xbox One est actuellement à un peu plus de 100 000 exemplaires vendus au Japon.
C'était un méga carton à l'époque.
Bah, en 2009, elle était déjà à 10 fois plus de ventes que la Xbox One. Et pour le coup, 1,6 million, ça paraît presque comme un gros succès commercial.
Oui, il y a eu un vrai effort de la part de Microsoft de proposer des JRPG. On se souvient de Blue Dragon, le Mistwalker aussi, Lost Odyssey.
Et aussi, même dans des trucs un peu plus niches, mais qui parlent vraiment au public japonais, tu avais tous les Idol Master qui étaient exclusifs à la Xbox One.
Plein
et
de Danmaku aussi.
Qui marchaient bien vis-à-vis du public japonais. Donc c'était... C'était une console de niche là-bas, mais qui avait réussi à se faire sa petite niche finalement. Mais bon, voilà, on a là maintenant.
10 ans plus tard, les temps ont bien changé. La Xbox One, c'est plus compliqué.
C'est un peu plus compliqué.
Ah, là, c'est la micro-niche. Ouais, c'est un peu
compliqué.
Ceci
dit, c'est compliqué aussi pour la PS4 au Japon. Elle ne fait pas des scores stratosphériques non plus.
Bah, elle a passé les 8 millions.
Oui, on est loin des par rapport autres, à avant, on est très loin encore.
On se dit que si la One fait 1 million au Japon, on met la news en une pendant une semaine.
Ok, allez.
Autant ne pas prendre de risques, ça va.
Exactement.
Une news qui va parler aussi à Plume, puisqu'il y a 10 ans, on reportait une déclaration de ce cher Camilla qui parlait de Bayonetta qui n'était pas encore sorti à ce moment-là. C'était Raon qui nous en parlait.
Camilla Lard.
Oui. Alors là pour le coup, c'était pas Camilla mal. Tout court.
Il faudrait faire un montage.
Avec la tête de Camille. Je crois qu'Angel peut s'en charger, parce qu'Angel a la main lourde en ce moment sur les montages photos.
Quant à IT, sur Discord.
Si vous voyez ce que je veux dire. Et pour le coup, Camilla nous parlait, là en l'occurrence, de la difficulté. Dans les jeux, on en parlait il y a quelques jours parce que From Software parle justement d'intégrer un mode un petit peu plus facile à un certain Sekiro qui vient de sortir. Voilà. Et pour le coup, il parlait d'une difficulté statique, etc. Mais c'est pas pour ça en fait que j'ai forcément retenu la news. C'est parce qu'à un moment donné, dans ses déclarations, Camilla disait qu'il n'était pas très fan des suites en fait de jeux et que ça avait tendance à un peu faire stagner le marché. Quand on sait que c'est Bayonetta 3 maintenant qu'on attend sur Switch dans pas très longtemps, on peut
très logique.
On peut voilà ricaner un petit peu, même si évidemment, on va pas critiquer la qualité de ces grands beat'em all, parce que je vois que oui. Plume s'apprête à me fusiller du regard.
Exactement. Non, mais il y a de la télé face.
Faut bien manger en plus. Hein.
J'apprécie énormément Bayonetta au demeurant, mais voilà, c'était rigolo de voir qu'à l'époque, lui disait qu'il voulait faire quelque chose de véritablement nouveau et que les suites, c'était pas trop son truc.
Bah, c'est doublement marrant parce que d'un côté, il y a cette remarque sur les suites et on sait ce que ça a donné, et la remarque sur la difficulté, sachant que de mémoire, c'est avec Bayonetta 2 arrivant sur Wii U qu'ils avaient ajouté un système, j'ai une limite à un bouton ou je sais plus quoi, ou c'était peut-être sur le portage Wii U du premier où ils avaient ajouté un.
Quoi, pour faire des combos, des combos
un système, un système pour simplifier le gameplay.
Ouais,
pour
tactile,
les.
Ah bah, c'est avec un bouton, et ça marchait très bien d'ailleurs, ouais. Au passage. Mmh. Et ça permettait à tout le monde de pouvoir y jouer comme il veut.
T'appuies sur le bouton,
puis il y avait plusieurs niveaux de difficulté. Enfin bon, tout allait
bien. Donc, alors. Ah, si vous y avez pas joué, allez-y.
Ils sont sur Switch tous les deux.
Ouais, absolument, tout à fait.
Oui, mais sur Switch.
Et enfin, il y a 10 ans, c'était pas forcément une news, c'était plutôt un dossier, puisqu'on aurait tendance à l'oublier, mais le 3 avril 2009 sortait la DSi. Et pour le coup, vous aviez tous fait
le dossier pour tout savoir.
Un dossier à l'époque, exactement, pour tout savoir, avec les nouveautés, etc. Et c'est vrai que on s'en souvient pas forcément de la DSi, elle est rapidement passée sous silence.
Sortie de ma mémoire, ça.
Mais vous aviez quand même fait un espèce de comparatif assez exhaustif à l'époque, et on avait à la fin la dernière rubrique, les pour et les contre, et c'était rigolo puisque y a l'un des points qui te mentionnait, toi mon cher Traz, ainsi que Julo, feu Julien Hubert, qui disait « Julo et Traz, en bon papa, soulignent que les petites applications ne vont sans doute pas bien loin, mais qu'elles sont extraordinaires pour s'amuser avec ses enfants ». Alors je me demande si avec le recul tu t'es bien amusé.
Ça t'a marqué.
Franchement je me souviens plus, je t'avoue.
Et l'un des points faibles.
Ah oui, exactement. Si je m'en souviens, c'est bon, je m'en souviens. Et oui, il y avait des mini-jeux effectivement. Et je jouais avec ma fille à enregistrer des voix, etc. Enfin des trucs un peu.
Ah, ça me rappelle quelque chose.
Un peu rigolo quoi. Donc oui, c'est vrai, j'en souviens. Mais bon, après c'était assez basique entre guillemets, voilà, oui.
Et dans les contres, moi je l'avais complètement oublié aussi, mais la rétrocompatibilité avec les cartouches Game Boy Advance disparaissait de la DSi. Moi j'en ai jamais eu entre les mains.
Le d'avant.
Ça, du coup j'avais complètement oublié, c'était l'un des points que vous soulignez
un
dans
des
le dossier.
Négatifs,
ouais, il y avait ça, et en plus elle était zonée. Alors que les Game Boy, toute la lignée de Game Boy
et
les DS n'étaient pas zonés.
Les DS Lite non
et
plus.
Le zonage qui est ensuite qui a perduré sur 3DS est arrivé avec la DSi. Et moi, quand je repense à la DSi, ce qui me vient surtout à l'esprit, c'est le marketing de la DSi XL, qui avait été commercialisée et vendue comme étant une console pour les personnes âgées, parce qu'elle était plus grosse, et donc avec un écran
plus grand,
etc.
Si tu voyais mal, tu voyais.
Et en plus, même elle était marron de mémoire, enfin, même la couleur de la machine était plus.
Qu'est-ce que ça te suggère, le marron pour les vieux?
Non, je sais pas, tu t'imagines plus une personne âgée jouer avec une console marron qu'avec une console peut-être vert fluo.
Un peu high-tech.
Comme ça,
D'ailleurs, j'ai une console marron X, une DSi.
Ah, bah
t'es
vieux, ça y est.
Bah ouais, t'es vieux.
T'es un vieux!
Par contre, moi, j'avoue que avant que la 3DS sorte, sur les derniers temps de la DS, j'ai un peu joué avec la DSi XL, justement parce que l'écran était plus grand et je trouvais ça plus confortable.
Plus
tu vois. C'est comme après quand il y a la 3DS qui est sortie. Bon, j'ai évidemment joué à la 3DS, mais dès que j'ai pu me prendre une 3DS XL, c'est ce que j'ai fait parce que je trouve que c'est plus agréable avec un écran plus grand. Donc voilà.
Voilà. Puis vous notiez le prix un petit peu élevé à l'époque.
C'était combien déjà? Je sais plus.
Elle est sortie à 179 €. TTC en France.
Putain, si on savait ce qui est arrivé après,
mais
on aurait été content de 79 €.
Ça leur a pas empêché en tout cas de cartonner, puisque j'ai regardé les chiffres et la DSi, tout modèle confondu, s'est écoulé à 28 millions d'exemplaires, donc quand même une jolie performance, sachant qu'on était en 2009, donc avec déjà quelques années au compteur en termes de DS. Donc voilà, c'était l'occasion de rappeler la sortie de cette console, qui est pas celle qu'on cite le plus souvent.
Méga carton de la DS globale, quoi.
Oui, de toute manière. Ouais. Et bien après tout ceci, en guise d'introduction, nous allons passer au menu. À proprement parler.
Je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet.
Exactement.
C'était les entrées, maintenant on passe au plat, quoi.
Exactement. Avec le premier thème, donc la PAX East. Que tout le monde a suivi avec assiduité, évidemment.
Oula, toi aussi.
Bien sûr, moi le premier. comme toujours.
Bah, c'est surtout que la PAX East, c'était beaucoup de choses qui étaient sur place, qui n'ont peut-être pas forcément filtré à l'extérieur. Il y a eu pas mal de panels, on en a parlé pour Bethesda tout à l'heure.
Et surtout pour Borderlands, évidemment.
Et évidemment, c'est vrai que le truc qui a été le plus impactant de cette PAX East, c'est le panel de Gearbox, tout simplement.
Tout cas, Gearbox, ouais.
Qui est arrivé, alors si je me rappelle, c'était jeudi à 19h.
Ça,
il a fallu un petit moment quand même avant qu'on ait droit à ce qu'on voulait exactement. Alors, ils ont fait plein d'annonces qui étaient super, évidemment. On a commencé par la Game of the Year Edition du premier Borderlands qui arrive ce 3 avril.
Oui.
Avec
sur
aussi. Sur PS4, Xbox One et PC. Il y a aussi
et l'Ultra HD
Borderlands Handsome Collection, donc qui comprend The Pre-Sequel et Borderlands 2, qui lui récupère des textures Ultra HD parce que voilà, c'est comme
parce
ça
que c'est la vie,
le 3 avril aussi Borderlands 2 VR qui lui recevra cet été des mises à jour, une mise à jour pour récupérer tout le contenu en DLC qui était paru pour le jeu original.
Tout à fait.
Bref, on a eu droit à tout ça, on a eu droit à un tour de magie de Randy Pitchford qui a duré une demi-heure, on a eu droit à des annonces éditeurs pour présenter des jeux comme The Pathologic, Pathologic 2, parler du premier DLC de We Happy Few, Trover Saves the Universe qui s'est remontré, qui sort le 31 mai, qui va faire rire beaucoup de monde et surtout les fans de Rick et Morty, Bulletstorm Duke of Switch qui arrivera cet été aussi, mais surtout, il a fallu attendre après pas mal de problèmes techniques,
forcément.
Un trailer qui refusait de se lancer et qui a mis beaucoup dans l'embarras Randy Pitchford qui était sur scène et Paul Sedge, le directeur créatif du jeu Borderlands 3, qui a été montré, et je crois que les fans en ont eu pour leur argent avec à peu près tout ce qu'il est possible d'imaginer par rapport à un nouvel épisode de Borderlands. Alors on a pu voir les quatre héros, il n'y a pas eu beaucoup d'infos en soi, mais il y a eu beaucoup d'indices par rapport aux vidéos. On retrouvera normalement l'ambiance complètement déjantée de Borderlands 1 et 2 qui sont quand même des jeux très très appréciés. Les quatre
aussi.
Personnages principaux, il y a des noms qu'on filtrait, mais après leur capacité, etc., leur rôle exact dans le jeu, on les connaît pas très bien. On peut voir que les environnements seront très très diversifiés.
En tout cas, c'est dans la même veine graphiquement. Ils ont pas changé.
C'est toujours du cel shading
et
c'est toujours
le même
style qui a été utilisé dans toute la série.
Bon, ça tue encore plus la gueule qu'avant. Hein.
Ça a l'air absolument sublime. Ils ont bien bossé, ça fait 5 ans qu'ils bossent dessus. Pitchford l'expliquait sur scène. On n'a pas trop de détails. Alors, on voit qu'il y a deux méchants qui ont l'air d'être liés à Handsome Jack, donc le grand méchant de Borderlands 2. Mais ça, on n'est pas sûr. Moi, le truc que j'ai retenu et qui me fait énormément plaisir, parce que je ne suis pas un gros bouffeur de Borderlands, mais par contre, il y a un jeu qui s'appelle Tales from the Borderlands, qui est donc le jeu narratif de Telltale dans cet univers. Il y a des personnages
de faux Telltale
qui vont être repris dedans, dont le personnage doublé par Troy Baker, Rhys, si je me rappelle. Et donc on va retrouver ces personnages là en plus. Il y a encore beaucoup de questions qui se posent, évidemment. Je sais plus à quelle date ils ont donné rendez-vous, je crois que c'est le 4 avril pour avoir de nouvelles informations, ou le 14 avril, je sais plus. Mais bref, de nouvelles informations.
Tard, hein. Ouais, je crois que c'est un peu plus tard.
Des tas de nouvelles informations sur le jeu. Mais en tout cas, malgré les problèmes techniques, ça a l'air de bien.
Ça a fonctionné, ouais.
Ça a l'air de bien se présenter. Les fans étaient plutôt réceptifs par rapport à tout ça. Et puis voir un petit flingue sur patte dans le trailer, c'est toujours rigolo.
Tout à fait. Exactement.
Donc voilà. On attendra d'en savoir un peu plus, évidemment, mais pour le moment, je pense qu'on tient à des jeux les plus attendus de l'année largement.
Ah bah là oui. Et puis de toute façon on va en reparler j'imagine dans pas longtemps, puisque comme tu disais ils vont revenir dessus dans quelques jours. Et on en verra sûrement plus, et on aura certainement d'autres détails là-dessus, quoi. Voilà, tout simplement.
Ouais. Après, Thomas, je sais pas si tout le monde est excité par Borderlands ici. S'il y a des...
Bah moi je suis pas un spécialiste de Borderlands, j'avoue. J'ai jamais joué de Borderlands de ma vie.
Moi non plus.
Mais je sais que ceux qui y jouent, ils kiffent vraiment, vraiment, vraiment.
Alors, j'ai fait un petit bout du premier. Moi, je suis pas tombé à la renverse comme la plupart des gens qui ont pu s'y essayer. Mais franchement, ce que je vois là du 3 en termes de DA me donne vachement envie de redonner sa chance à la série pour le coup.
Ils ont été loin, ouais, effectivement.
Ouais, voilà. C'est Eva qui aurait pu nous en parler.
Eva, ouais. Eva est repartie aussi dans d'autres contrées.
Voilà, feu Eva aussi, exactement.
Tout le monde est mort.
Voilà, exactement. On les a tous butés.
Ouais, on a tous achevé au travail. Et bien après Borderlands, il y a un autre jeu, Thomas, qui a retenu ton attention.
Oui, Yacht Club Games nous avait donné rendez-vous, ils nous avaient annoncé quelques jours avant qu'ils allaient dévoiler Cyber Shadow pour la première fois.
Fait.
Donc Yacht Club Games, qui est le développeur de l'excellent Shovel Knight et de tous les DLC qui ont suivi. Là pour le coup, il joue le rôle d'éditeur pour ce jeu, qui rappelle évidemment furieusement Ninja Gaiden, qui va donc être un mélange
Strider aussi, je trouve,
et de plateforme, un petit peu de Strider aussi.
Et The Messenger, qui est beaucoup plus récent.
Et forcément The Messenger, ça mélange un peu tout ça. Les ninjas ont vachement la côte en ce moment. Et on a pu découvrir pendant la PAX East le premier véritable trailer de Cyber Shadow, qui est développé par le studio Mechanical Head, qui est en fait quasiment un homme orchestre du pseudo de Mechascule,
co-founder
CEO de lui-même, etc. Et alors, le jeu n'a pas encore de date de sortie, on nous dit qu'il arrivera bientôt sans plus de précision. Il a l'air quand même finalement assez avancé, hein. Le jeu a été dévoilé à un moment où il y a pas mal de choses à montrer. Moi, ça me donne plutôt envie, même si on...
Étonnant.
Ouais, mais on commence à voir qu'il y a une récurrence là des ninjas en ce moment. Et pas mal de jeux ces derniers temps qui ont été annoncés qui surfent sur cette nouvelle
mode. Mais vous avez pas remarqué, ça marche toujours comme ça dans le jeu vidéo comme dans le cinéma.
On arrive à la fin des zombies là. Exactement. Et t'as l'impression que c'est
on
les ninjas qui ont la cote.
Exactement, c'est hallucinant. On dirait qu'ils se donnent le mot, je sais pas. Pas ce qui se passe.
On a pu apercevoir ce matin un peu de gameplay de Kunai, qui est aussi un Metroidvania avec une tablette ninja. Bon, là en l'occurrence, c'est tablette un vrai ninja avec, avec sa panoplie, exact, son katana, etc.
Et sa shuriken qui tue.
Et non, mais ça donne quand même furieusement envie. On s'imagine, au vu du titre, que ça risque d'être un petit peu corsé, a priori. Si le jeu se pose en héritier des Ninja Gaiden et qu'on sort, on devrait pas mal rager. En tout cas, on va suivre ça avec attention.
Exactement.
Et le jeu est pour l'instant prévu sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.
Quelle classe. Et il n'y avait pas que ça qui a retenu ton attention aussi.
Oui.
Une petite news qui va te faire pleurer tout de suite.
Alors pour le coup, oui, la mauvaise nouvelle qu'on a appris hier, c'est le report de Super Meat Boy Forever, qui n'a pas été annoncé officiellement, mais un de nos confrères a pu s'entretenir avec le rescapé de la Team Meat. Qui a annoncé que malheureusement le planning qu'ils avaient dévoilé, je crois que c'était en novembre 2018, d'ailleurs c'est toi mon cher Trace qui nous en avait parlé en nous précisant que cette fois c'était sûr, le jeu allait sortir en avril 2019.
Malheureusement, j'ai menti.
Ils ont l'air d'avoir les yeux plus gros que le ventre, je crois qu'ils en sont à 7200 niveaux.
Alors ça je comprends pas.
Pour l'instant, oui.
Mais qui va faire ça franchement, à part les fous?
Oui, mais tu sais, on est en 2019 avec internet, tout ça. Il y a des gens qui ne vont pas sortir de chez eux pendant quelques semaines.
7200
c'est le chiffre qui a été avancé pour l'instant par la Team Meat. 7200 niveaux, donc pour rappel, hein, c'est évidemment la suite de Super Meat Boy.
Ouais.
Là en l'occurrence, on n'est pas sur le même type de niveau puisque ça s'apparente plus à un Headless Runner dans des petits environnements.
Ah, ça a bien changé, hein. Vraiment.
Avec une esthétique
un
peu plus flash. Et voilà, malheureusement, on n'a pas de date de sortie du coup. Le jeu a été repoussé et la Team Meat déclarait que maintenant, il sortirait quand il sortirait en fait. Et que
ils veulent attendre les 10 000 niveaux avant de sortir.
Ils communiqueraient plus dessus avant d'avoir véritablement une date définitive à nous balancer. Donc... La déclaration de RefNS, c'était je vais pas vous dire le mois de mai parce que si je vous dis le mois de mai et que finalement
déçu,
ça n'arrive pas,
ça,
vous allez être déçu. Donc ça arrive bientôt. Et il a précisé d'ailleurs qu'il était très content de ne dépendre de personne, de pas avoir de compte à rendre à des backers ou à des investisseurs, puisque du coup ça lui laissait le loisir de repousser un petit peu la sortie du jeu.
Si
donc en espérant qu'il voit quand même un jour la fin du développement, parce que ça a l'air d'être assez chronophage de bosser sur la suite de Super Meat Boy.
Quand t'as plus de 7000 niveaux, je sais pas ce que t'attends en fait.
Il y a une part
la
génération aléatoire, je pense. Hein,
ouais. Et à 10 000 pour faire un gros chiffre. Et hop là.
Donc voilà, Super Meat Boy Forever, ça ne sera malheureusement pas pour tout de suite.
Exactement. Autre annonce, la Neo Geo Collection.
Oui, alors c'était une des très belles annonces de la PAXiste. Vous savez que Samurai Shodown revient avec le reboot qui va sortir cet été, d'abord cet été sur PS4 et Xbox One. Et en parallèle de ça, eh bien, SNK a dévoilé une nouvelle collection. Alors on avait déjà eu l'anthologie sur PS2 il y a quelques années. Là ça s'appellera tout simplement la Samurai Shodown Neo Geo Collection. Et comme son nom l'indique, eh bien, on va avoir droit aux 6 épisodes qui étaient sortis sur Neo Geo, donc du 1er au 5, avec le 5 spécial qui était la dernière cartouche historiquement produite par SNK pour la Neo Geo. Donc les jeux dans leur format d'origine, ce qui va permettre de rattraper un petit peu les premiers épisodes si jamais vous n'avez pas eu l'occasion forcément d'y jouer, parce que dans leur version originale ils sont évidemment très chers et difficiles à trouver. Donc
je dois avoir un chez moi que j'ai récupéré de l'époque, mais
J'ai le 3 encore en cartouche qui est malheureusement pas le meilleur. Mais voilà, ça va être. Ah, c'est le monsieur aux réponses monosyllabiques que j'avais pu rencontrer pendant la
celui qui est à gauche, j'imagine.
Celui de gauche avec les lunettes.
Vu qu'il parle pas, pour ceux qui n'ont que l'audio, désolé.
Voilà,
le monsieur de gauche a des lunettes,
le producteur du jeu, voilà. Donc c'est voilà une très bonne nouvelle, ça devrait arriver cette année et j'ai évidemment hâte de pouvoir m'y coller parce que ça va faire un petit peu comme la Street Fighter Anniversary Collection, ça va permettre de suivre sur une période assez condensée l'évolution de la série, de voir l'évolution des personnages aussi et voilà ça sera
et de leur coupe de cheveux aussi hein, parce que quand tu vois l'artwork
du
samouraï, j'ai pas son nom évidemment,
Aomaru.
Ouais. Voilà, quand tu vois le look d'Aomaru en artwork et le look qu'il a dans le jeu, tu te dis vaut mieux qu'il reste comme il est dans le jeu. Hein.
Ben en fait du premier au 4, ses cheveux n'arrêtent pas de pousser en fait. Il a une chevelure de plus en plus proéminente, comme on le voit là sur l'image que vous montre Poufy en bas à gauche. Donc pas d'image pour l'instant à part ces écrans de sélection. Il y aura un petit mode musée évidemment histoire de tirer un peu sur la corde nostalgique.
Et donc la date de relâchement c'est en automne prochain.
Oui exactement la date de relâchement tout à fait. Donc le jeu sortira comme vous le voyez sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC et j'ai très hâte de me replonger là-dedans.
Exactement, et de défoncer des têtes et de couper des...
À commencer par la tienne d'ailleurs.
Bras. Exactement. Quoi d'autre mon cher Thomas? Je crois qu'il y avait encore autre chose.
The Outer Worlds. Oui, il y a le jeu d'Obsidian pour le label indé de Take-Two qui a été montré aussi durant la PAX East. On a eu droit à 20 minutes de démonstration. Outer il y avait Worlds. Déjà eu 15 minutes en janvier qui avait été montré. Le jeu qui a été annoncé au Game Awards 2018. Et ça ressemble beaucoup à du Fallout. Ça a l'air tout à fait dans l'esprit de ce que Obsidian avait produit avec Fallout 3. Maintenant, ça fait un peu vide. Je reconnais que ça fait un peu vite, mais en termes de design...
Ça a pas l'air fini, quand même.
Pas du tout. Mais après, c'est Obsidian. Hein. Oui. Obsidian, c'est les spécialistes aussi pour avoir des bugs un peu partout. Le jeu se présente avec une esthétique qui est vraiment magnifique. Comme je le disais dans la news, ça me fait penser plutôt à du Bioshock du futur.
Oui, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à Bioshock.
C'est du vraiment... je sais pas si c'est Art Nouveau, c'est ça qu'on
dit.
Oui,
ça fait Art Nouveau encore.
Ça fait très Art Déco.
Ça fait très Art Déco, mais dans le futur, un peu ce que fait Prey, finalement.
Quant aux animations des années.
Et ça a l'air complètement tordu.
Du tout.
Oh la tête.
Enfin, tu compares ce jeu avec Cyberpunk qui va venir, je crois que tu flippes.
Oui, c'est pas le même style. Et à mon avis, en termes de narration, en termes d'écriture, en termes d'options, ça va pas être le même style. Et après, Obsidian, ils ont un défaut, effectivement, c'est qu'en termes techniques, ils sont pas encore
C'est pas
au top.
Brillant, hein.
Peut-être que Microsoft.
Oh peut-être. What the fuck.
C'est un bâton qui gèle en fait, c'est pour ça.
D'accord. Regarde la vidéo là, c'est pour ça qu'on
regarde. Peut-être que Microsoft qui les a rachetés leur donnera les moyens techniques et financiers d'atteindre d'autres sommets en termes de réalisation parce que c'est vrai que c'est un peu leur point faible depuis des années.
C'est un gros point faible quand on voit ça aujourd'hui, ça fait peur hein. Après c'est peut-être qu'une version alpha et que voilà, il y a pas.
Mais après comme je le dis toujours, si t'es pas content, t'as qu'à le faire.
Ah moi je sais pas faire ça, j'avoue.
Ah bon?
Non. Bah ceci dit, l'univers comme tu disais qui ressemble faire un peu penser à BioShock etc, ça a l'air plutôt sympa quoi.
Non, mais
après,
faut voir comme toujours. On peut s'attendre à quelque chose de bon en termes d'ambiance, en termes d'écriture, en termes de design, mais après c'est vrai que le jeu lui-même, il va falloir voir parce que même les gunfights, ils m'ont pas paru foufou.
Regarde l'IA. Donc tu as vu?
Bah en même temps c'est un robot, non? Donc c'est normal.
C'est un robot qui explose.
Donc voilà, The Outer Worlds qui était montré, qui donne quelques espoirs, mais en même temps quelques craintes.
D'ailleurs, les 20 minutes, on les a mis sur le site, si vous voulez voir. N'hésitez point à jeter un œil à tout cela, si vous tenez 20 minutes. Voilà, tout simplement. T'as rajouté un petit mot là en dessous?
Non, c'était comme ça. C'était un truc qu'on a même dit au tout début, tu vois.
D'accord.
C'est...
Bon, voilà, on a fait le tour sur la PAX 6.
On va raccrocher les wagons, absolument.
C'est la PAX 6 2019 qui était. Bon, qui était sympa, mais
comme le mieux, c'est d'y être.
Comme tu dis, effectivement, il faut y être parce qu'il y a plein de choses qui se passent derrière en coulisses. Ils montrent sûrement des trucs secrets, genre des moteurs qu'on a jamais
vu. C'est un salon très américain pour le coup.
Puis ça reste très high-tech, entre guillemets, quoi. Il faut avoir les mains dans le cambouis pour voir vraiment ce qui s'y passe réellement, quoi.
Et on ira l'année prochaine, puis voilà.
Peut-être.
Bah voilà, on va tous ensemble. Toi, en plus, t'es irlandais.
Ah, moi, je suis irlandais de souche.
Donc forcément, Boston, ce sera un peu ta maison.
Exactement. Tu connais Boston?
Back Nini.
Bah voilà, exactement. Bon, après ce premier thème haut en couleur et haut en bidule, on va passer au second thème.
Oui,
Et là, par contre, ça va japoniser à fond, puisque on va parler
japonise à donf.
Du Sega Fest.
Ouais.
N'est-ce pas, Romain Utma?
Eh ben, le Sega Fest, ça fait
Sega Festival
3 ou 4 ans que ça
qu'on
se produit.
Qu'on n'y va pas. Une fois.
Bah, Rudy y était l'année dernière.
Rudy y était l'année dernière, ouais, c'est vrai. C'est...
Mais pas invité, il y a été comme simple
touriste.
Il a vu la lumière, il est rentré.
Oui, c'est
exactement.
Ça. Oui, donc Sega Fest, c'est un petit festival qui se produit chaque année au tout début du mois d'avril, comme ça, à Akihabara.
Akihabara.
À Tokyo. Donc c'est un festival qui concerne Sega dans sa globalité, aussi bien les filiales jeux que les filiales divertissement, etc.
Arcade, enfin, et compagnie.
Il
ouais.
y a plein de trucs. Et c'est toujours, en plus des animations sur place, comme les, la Saturn géante sur
oui.
laquelle tu peux jouer avec une
on
manette.
On a vu les images un peu.
Ou un UFO géant aussi, où c'est,
oui, il y avait ça
c'est la personne qui est accrochée et qui fait le grappin et qui doit attraper des trucs. Et ça doit être assez rigolo à essayer. Et en plus de ça, il y a plein d'annonces. Il y a des nouveaux jeux, des nouvelles choses qui sont montrées. L'année dernière, on se souvient que Sega avait annoncé qu'ils allaient proposer une Mega Drive Mini Shenmue 1 et 2 HD, le développement d'un nouveau Sakura Taizen. C'est là aussi où la gamme Sega Ages pour Switch avait été révélée. Et ben là, on a eu plein de nouvelles infos, dont
exactement.
Certaines des mises à jour de ce qui avait été déclaré l'année dernière. On va commencer par le plus gros du truc. C'est donc des nouvelles informations et là des trucs très concrets sur la Mega Drive Mini.
Exact.
Alors l'année dernière, ce qui est marrant, c'est qu'il y a eu des changements radicaux. C'est que quand la Mega Drive Mini a été annoncée l'année dernière au Sega Fest, c'était At Games qui devait s'occuper de l'émulation. Mmh. Et on sait qu'At Games, c'est eux qui sortent toutes les consoles mini, Sega, Atari, tout ça, qui sont d'une qualité assez, assez mauvaise généralement. Et
discutable,
quand ça s'est
pour
su,
rester poli. Ouais.
Ouais, oui. Ça s'est su dans les heures qui ont suivi le Sega Fest, et tout de suite, levée de bouclier international. Et donc, Sega a complètement changé son fusil d'épaule. Pour le coup, ils vont produire la console en interne. Donc, c'est peut-être le premier hardware produit par Sega depuis la Dreamcast, je pense. L'émulation est gérée par M2. Mmh. Donc M2, c'est eux qui faisaient les portages 3DS de jeux rétro Sega en 3D, ainsi que la gamme Sega Ages. C'est ce studio japonais-là qui s'occupe de ça, donc qui est très doué en termes d'émulation. Yuzo Koshiro, donc compositeur de Streets of Rage, entre autres, compositeur de nombreux jeux cultes, qui fait la musique des menus de la Mega Drive Mini. C'est 40 jeux. Donc après les gens disent mais Sega sort des compilations Mega Drive sur toutes les plateformes à chaque fois, quel est l'intérêt? Et ben là en fait l'intérêt c'est qu'il y aura des jeux Sega et aussi des jeux d'éditeurs tiers, alors qu'on sait que les compilations Mega Drive qui sortent généralement c'est que du jeu Sega. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Il y a deux manettes. La console en elle-même fait 55% plus petite que la Mega Drive normale. Évidemment en fonction des régions on aura un modèle qui ressemble à ce à quoi on avait le droit, c'est-à-dire la Mega Drive japonaise avec la petite barre rouge devant. Aux États-Unis, bah, elle ressemblera à la Mega Drive japonaise, sauf qu'elle s'appelle Genesis et il y aura le gros Genesis écrit dessus. Chez nous, bah, on aura la Mega Drive numéro 1 telle qu'on l'a connue. Autre différence, et là, ça va créer débat. Au Japon, la console sort avec une manette 6 boutons, enfin deux manettes 6 boutons.
Une ou deux? Il y a deux packs.
Ouais. Manette 6 boutons, alors que chez nous, on aura d'emblée deux manettes, mais ça sera deux manettes 3 boutons. Alors je sais que ça fait rager Thomas.
Super tiep.
Moi, c'est un peu comme l'histoire de la manette PlayStation et de la DualShock quand la PlayStation Classic a été annoncée. Vu le packaging et vu la console choisie, c'est pour, je pense, être le plus authentique possible. Parce que moi, la Mega Drive.
Et en faire une deuxième plus tard pour la vendre
un peu
plus cher.
Ou ça, ou tu pourras acheter peut-être des manettes à part.
Pour l'instant, c'est pas annoncé les manettes.
C'est pas annoncé, mais
c'est ça le problème.
Sachant que ce sont des manettes USB et que Sega avec Retrobit a récemment sorti ou commercialise de manière imminente des manettes officielles USB Mega Drive 6 boutons, peut-être que ça sera compatible.
Espérons.
On ne sait pas. Donc c'est prévu pour le 19 septembre prochain dans le monde entier. En Europe, ça coûtera 80 euros. Et pour l'instant, on ne sait pas, on connaît pas la liste des jeux sur les 40 jeux connus. On en a juste 10. Et ce qui est amusant, bon, ce qui est assez logique pour le coup, c'est que les jeux ne seront pas les mêmes au Japon et chez nous. Alors, je vais vous dire ce qu'on a pour l'instant chez nous annoncé. C'est Echoes Dolphin. Donc, c'est assez, logique. Castlevania The New Generation.
Ça, c'est bien vu. C'est un très très bon épisode qui est pas très connu et c'est bien qu'il
mérite d'être redécouvert un petit
absolument,
peu.
Ouais.
Space Harrier 2, Shining Force, Dr. Robotnik's Mean Machine, donc un jeu, un puzzle game, Toe Jam & Earl, Comic Zone, Sonic 1, Altered Beast et Gunstar Heroes. Donc
Sonic 1 chez nous et Sonic 2 au Japon.
Voilà, alors je vais quand même vous
encore une raison de faire tiep.
Pour la liste japonaise, donc Sonic the Hedgehog 2, Puyo Puyo 2, Shining Force, donc Vampire Killer qui est le Castlevania sous son nom japonais, Wrestle Ball, Gunstar Heroes, Comic Zone, Rent a Hero, Rent a Hero qui est jamais sorti chez nous aussi bien sur Mega Drive que la version Dreamcast qui est sortie ensuite. Space Harrier 2 et Mado Monogatari. Voilà. Et évidemment, il y a 30 jeux qui vont suivre. Sega a d'ores et déjà promis que d'autres jeux d'éditeurs tiers seraient dans la liste. On parle de Sonic 1 chez nous ou Sonic 2 au Japon. Moi, personnellement, je ne serais pas étonné qu'il y ait d'autres Sonic qui soient inclus dans la liste européenne.
Sonic 3 est souvent absent des compiles. La plupart du temps, ils balancent Sonic 1, 2 et Knuckles. Et c'est à peu près tout ce qu'on a. Je sais pas pourquoi ils veulent pas ressortir Sonic 3, qui est un super épisode.
Des droits bizarres.
Ça serait étonnant, en tout cas, qu'ils nous sortent Sonic 1 et Sonic 3 et qu'il n'y ait pas le 2.
Qu'il n'y ait pas le meilleur.
Ouais. Après, ils courent le risque, évidemment, de mettre trop de jeux Sonic. Et que les gens disent bon ça va, il y a 40 jeux pour y aller.
Flicky's Island, on s'en passera, je crois. on l'a assez vu dans tout un tas de compilations.
Après, c'est de l'USB. Donc j'aurais tendance à imaginer que dans les jours qui suivront la sortie de la machine, elle sera bidouillée,
hackée 50 fois.
C'est là que c'est d'autant plus un problème pour nous, parce que tous les jeux qui vont justement réclamer plus que 3 boutons, les 3 boutons de façade, on va être bien embêté si
Street Fighter, on est plus embêté.
Sachant que la version Hyper Fighting à un moment donné était la plus réputée, en tout cas celle qui était sortie sur Mega Drive, était celle qui avait le plus la cote auprès des amateurs de Versus
la
Fighting.
Côte même, hein.
La côte.
Parce que la côte tu la montes hein.
Tu vas voir ce que tu vas monter toi.
Et te faire courir,
tu me fais rêver
et du coup ça reste quand même un problème, parce que même enfin ça peut aussi laisser présager que les 30 jeux dont on n'a pas encore connaissance sur la version européenne ne tireront pas parti de la manette à 6 boutons qui était d'ailleurs sortie sous pression justement de Capcom, qui voulait un vrai portage de Street Fighter 2 en bonne et due forme. Donc moi ça me fait plutôt flipper au niveau de la ludothèque qui va être proposée.
C'est un drôle de choix, enfin
à plus forte raison de savoir qu'ils sortent la version à 6 boutons au Japon, quoi.
En termes de packaging, je comprends la cohérence qu'ils ont cherché à obtenir en faisant parce qu'on a vu la photo du packaging européen, c'est vraiment le premier modèle modèle de Mega Drive. Après pour les manettes, moi je sais que personnellement j'ai eu à l'époque moi Mega Drive avec Altered Beast, tu sais, le pack où les deux étaient ensemble,
la Battle Terrain.
J'avais une manette 3 boutons, j'ai eu une manette 6 boutons bout d'un certain temps, mais en tout cas la plupart des jeux auxquels j'ai joué, ça m'a jamais causé de tort de pas avoir 6 boutons. Donc il y a quand même une ludothèque conséquente qui te permet de jouer avec 3 boutons, mais c'est vrai que s'ils comptent inclure Street Fighter, ça risque d'être problématique. Mais après
d'autres jeux de Versus Fighting aussi, parce que dès que t'es sur du jeu de combat, 3 boutons ça fait un peu lèche, quoi.
Ouais. Après on verra bien, ça sort en septembre, donc ça laisse quand même pas énormément de temps, donc je pense qu'on va avoir des annonces au sujet des jeux assez vite
au fur et à mesure.
Elle coûte combien
la 79
mais au Japon elle est beaucoup moins chère.
Au Japon c'est 6980 yens, ça fait environ 56 euros, mais ça c'est pour la boîte avec une seule manette.
Ah oui, d'accord.
Et le pack avec deux manettes c'est à 8980 yens, ce qui fait environ 72 euros, parce qu'il faut aussi garder à l'esprit que le yen est assez faible en ce moment, donc c'est avantageux. C'est avantageux pour nous.
Les fans prendront les deux machines et puis voilà, hein. Européenne et japonaise.
En tout cas, moi, ça m'intéresse bien. J'ai hâte de voir la liste des jeux. J'aimerais bien Castle of Illusion. Vu qu'ils ont un deal avec Konami, Hyperstone Heist, qui est là. Comme il n'y avait pas Turtles in Time sur la Super NES Mini, ça pourrait être un coup que d'avoir
un Turtle Knight aussi. Rocket Knight,
ça nécessiterait de dealer la licence des Tortues Ninja.
Comme Disney, tous les Castle of Illusion, Quackshot, etc., qui sont d'excellents jeux, il faut quand même avoir le partenariat avec Disney pour les sortir.
Mais ça fait supprimer une étape quand même, parce que Castle of Illusion était développé par Sega directement, donc ça fait un intermédiaire de moins, on va dire. Mais bon, curieux de voir ce qui va se faire à ce niveau-là. En tout cas, ça a fait pas mal de bruit. Les Américains étaient un peu deg parce que Sega a pas, on le sait, nous, parce qu'on a parfois les éditeurs nous envoient les communiqués en avance avec une date d'embargo en disant vous pouvez balancer votre truc. Là, ils ont prévenu personne, ce qui fait que nous on l'a fait très tôt le matin. Mais les Américains, eux, ils dormaient complètement.
Ils se sont réveillés,
donc eux, ils ont eu les news en début d'après-midi.
Écoute, pour une fois que c'était dans ce sens-là,
certains se plaignaient. Parce qu'après tout leur direct machin à 22-23 heures, ça gêne.
On est toujours tributaire de l'heure américaine généralement, donc
ça leur fera les pieds, tiens.
Et donc et j'ai aussi hâte d'entendre les musiques faites par Yuzo Koshiro pour le pour les menus. Ça, je, l'interface pourrait être.
Mais juste pour les menus. Hein.
Bah, tu voudrais qu'il ait.
Bah, je sais pas.
Qu'il ait remixé toutes les musiques de tous les jeux. T'avais parlé d'une interface qui était développée par Phil Fish aussi.
Non, ça c'est sur la Mega S.
Ah, c'est la Mega SG, pardon, oui, j'ai confondu les deux.
Ça c'est la Mega SG qui elle te permet de jouer avec tes cartouches d'origine.
Ça c'est la classe.
C'est encore autre chose.
La Socla.
Donc voilà pour la, tout ce qui concerne la Mega Drive Mini. À côté de ça, on a eu des nouvelles de Sakura Taisen, donc Sakura Wars
chez nous.
En turc.
Et je crois, il me semble qu'historiquement, ça sera le deuxième épisode de la série à paraître en Occident.
Oui, seulement le 5 est sorti chez nous et a priori celui-ci.
Ouais, ça a été annoncé. Vidéo. C'est la nouvelle politique de Sega. Hein. Ils essayent, dans la mesure du possible, de sortir en Occident tout ce qui sort au Japon. Donc l'annonce a été faite au Japon, dans la foulée en Europe. On sait déjà que le jeu, bon, pour l'instant il a le nom de code Project Sakura, Sakura Wars. Il sortira au printemps 2020 sur PS4 avec des sous-titres en français. C'est important parce
ça
a été précisé tout de suite.
D'entrée de jeu, c'est quand même rare.
Donc ça se passe 12 ans après le dernier Sakura Taisen. Et nouveau personnage, nouvelle équipe, comment dire, derrière le jeu. C'est toujours évidemment un RPG avec une vision très romantique du Japon.
Ben regarde.
Et donc une nouvelle équipe derrière tout ça. Donc on sait au chara-design, déjà c'est Tite Kubo qui est le chara-design, le chara-designer de Bleach.
Le mangaka, ouais.
Du manga Bleach, oui, qui est un mangaka à la base.
Avec des yeux géants, des jeunes filles.
Au scénario, ce sera Jiro Ishii, qui est un spécialiste des visual novels, qui est par exemple l'auteur de 428, que moi j'aime beaucoup, visiblement Thomas aime moins.
En termes de choix narratif, il y a pas mal de choses assez discutables.
Et
les boobs.
Et à la musique, c'est Koei Tanaka, qui a composé tout un tas de trucs, mais qui est particulièrement un vétéran des musiques de Sakura Taisen. Donc c'est à de quoi réjouir les fans de longue date de la série qui ont dû jouer en import jusqu'à présent. Et les curieux.
Moi, 15 ans sans épisode quand même. Hein.
Ouais, bah ça remonte. Et
ah pourtant, ouais,
c'est
15 ans.
2005, le cinquième.
Et pourtant, c'est une série ultra populaire au Japon. Donc c'était un peu l'événement là-bas. D'ailleurs, le prochain Famitsu, la couve, c'est ce jeu-là. Hein. Donc c'est un gros truc pour le Japon.
Non, mais du coup, là, niveau graphique, c'est un bond gigantesque en avant, quoi. Ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait avant.
Oui, alors que ça reste quand même très japonais parce que au niveau du détail des décors, etc., on voit que c'est pas quelque chose d'ultra réaliste. Mais le chara-design de Tite Kubo, ça donne plutôt envie, je trouve.
Ouais, c'est beau.
Du premier trailer qu'on a vu, ça met vraiment dans l'ambiance.
Bah, la vision du Japon qui est propre à Sakura Taisen a toujours été sympa. D'ailleurs, dans certains épisodes sur Dreamcast, par exemple, t'avais la France aussi. Mmh. T'avais une version un peu comme ça de
Paris.
De Paris, ouais. C'était assez chouette et moi je me souviens sur Dreamcast ils avaient sorti une Dreamcast rose Sakura Taisen, etc. Il y a eu beaucoup de produits Sakura Taisen sur Dreamcast, mais j'ai vraiment connu la série, enfin plus dans le détail, grâce à Project Cross Zone, parce que dans Project Cross Zone 1 et 2 les personnages de Sakura Taisen figurent à chaque fois et tu peux les incarner, comme il y a beaucoup de références et trucs comme ça. Ouais. J'ai appris à connaître les personnages comme ça et c'était plutôt chouette. Les musiques sont très réussies aussi dans Sakura Taisen généralement. Donc voilà, grosse nouvelle et bonne chose pour le public occidental. C'est
nouvelle.
Qu'on sait d'ores et déjà que ça sort chez nous en même temps que le Japon avec les sous-titres en français.
Ça,
donc
c'est très fort,
ça c'est cool. Autre annonce, Sega Fest 2019, c'est une annonce multiple en fait. On savait depuis déjà, même plus d'un an je crois, que Sega avait à nouveau négocié pour avoir les droits des jeux vidéo officiels des Jeux Olympiques. Et bah ça s'est précisé, on va dire, pendant le Sega Fest. Et là, on sait carrément qu'il y a 4 jeux en développement. Mm. Alors, on les aura pas tous nécessairement en Europe, mais au moins
dans un arcade.
Voilà, on sait de manière sûre qu'on en aura 2. En Europe, les principaux, on va dire. Donc il y a Jeux Olympiques, le jeu vidéo officiel Tokyo 2020. Ça c'est toujours prévu chez nous sur PS4, Xbox One, PC via Steam et Switch. Ça sortira de mémoire. J'ai oublié d'imprimer le truc. Ça sort l'année prochaine, je pense, juste
oui,
avant
c'est 2020, c'est ça, je crois.
Juste avant les Jeux Olympiques. Alors là, ça sera plus réaliste en termes de visuel. Voilà, comme vous voyez à l'image en ce moment, c'est un jeu plus
le réalisme avec les athlètes entourés d'une aura de feu.
Mais
au niveau des disciplines et tout ça.
Ouais,
machin,
les disciplines et du chara design. Voilà. Et après, il y a des. Oui, ils ont l'air visiblement d'avoir ajouté des effets. les coureurs prennent
les jeux les plus dopés de l'histoire.
Il faut que ce soit un minimum fun aussi, quoi.
Bah, alors, bah, tu sais, pourtant moi je c'est le seul auquel je joue un peu
comme ça, hein.
Sur les Jeux Olympiques de Beijing en 2008, c'était Sega, déjà c'était la première fois que Sega s'occupait du jeu.
Exact.
Et pour le coup, il n'y avait pas de traînée de flammes derrière les.
Pour le coup,
c'était très réaliste, c'était pas forcément super réussi.
Ouais, mais là, c'est au Japon, tu vois, donc il faut forcément que ce soit au-dessus du reste.
En mine de rien, le trailer le montre, hein, il renvoie aux Jeux Olympiques de Tokyo de 64. C'est l'organisation des JO, c'est vraiment très très important pour le Japon.
T'as un ancien médaillé d'ailleurs d'haltérophilie qui est dans le trailer qu'on a vu.
Le vieux monsieur qu'on voit.
Dis, papy, tu me racontes les Jeux Olympiques.
D'ailleurs, je me rends compte qu'au niveau des disciplines par rapport à la vidéo qu'on regarde là, si vous êtes premium, il y a vachement plus de disciplines qu'il y avait avant. Là, j'ai vu du tennis, du ping-pong,
du football,
du BMX.
Ils en ont rajouté pas mal. Hein. Je sais pas combien il y en a précisément, mais.
Donc, ça, c'est pour le jeu réaliste.
C'est plutôt sympa, quoi.
Oui. À côté de ça, sans surprise, tu as un nouveau Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Hein, voilà. Là, c'est uniquement sur Switch. Hein. C'est pas surprenant. Toujours le concours de mascotte entre Sega et Nintendo. Ça devrait être dans la droite lignée de ce qu'on a eu jusqu'à présent. À la différence que ça sort cette fois sur Switch. Je crois qu'il me semble que c'est le premier épisode de Mario et Sonic à arriver sur Switch. Que le dernier, c'était sur 3DS et Wii U, il me semble.
Il n'y en a pas eu depuis, effectivement.
Donc, c'est le premier qui arrive. Ça va certainement très bien se vendre. Un autre Mario et Sonic, cette fois en arcade. Donc,
c'est ça qu'au Japon, ça, je pense. Hein.
Les jeux arcade avec Mario ou Sonic arrivent parfois chez nous, donc j'affirmerai pas de manière catégorique que ça sortira pas chez nous, mais en tout cas c'est prévu. Et un dernier jeu, Sonic aux Jeux Olympiques, là, sans Mario cette fois, et qui est uniquement sur mobile. Là encore, on ne sait pas si ça arrivera chez nous, parce que Sega sort pas mal de jeux sur mobile au Japon. Ils en sortent d'autres en Occident, donc on ne sait pas quelle région est concernée.
Ils vont choisir.
Je pense que j'aime bien le côté fun qu'on voit dans le sérieux, on va dire. Tu sais, le côté traîner de feu, les auras, etc.
Oui, ça reste réaliste, mais en même temps, il y a un petit
ajout. S'ils arrivent à nous retrouver l'esprit des jeux de Jeux Olympiques qu'on avait sur 32 bits, parce qu'on sait que sur PS1 et sur Saturn, il y a eu d'excellents Decathlon.
Des multi-Decathlon.
C'était quoi, c'était Olympic Games? Non, il n'y avait pas un Olympic quelque chose sur.
Il y avait sur celui de Konami qui était
extraordinaire. Il y en avait un autre auquel vous avez fait référence il n'y a pas très longtemps aussi.
Moi, je parlais de Virtua Athlete 2K hier.
Ouais, c'est ça. C'était quoi?
C'est celui où les gens, enfin les athlètes ont un baobab dans le der, c'est animé avec les pieds, mais c'est tellement drôle.
Ouais, donc
c'est toujours du button smashing de toute façon. C'est ce que tu réclames.
J'ai oublié le nom, qui était excellent aussi.
Je me rappelle, il y en a un où il fallait faire rond-croix, et à force prenait des tubes de colle U.
Oui, bah oui, tu m'en faisais ça.
Briquet.
Je m'étais ouvert le pouce en jouant à
ça. Briquet ou manche? Moi, j'utilisais ma manche. Je le mettais en boucle comme ça.
C'est vrai que briquet, ça marchait très très bien.
Mais tu vois, s'ils arrivaient à retrouver cet esprit-là et à nous refaire un jeu fun comme ça à 4 ou plus, ça serait
magique.
Cool.
Hein. Ça serait
surtout que là, les sports représentés ont l'air plutôt marrants. Bah, ça change.
Grâce aux nouvelles disciplines aussi qui sont arrivées, le BMX, c'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir.
Comment ils font alors si un jour il y a l'e-sport aux Jeux Olympiques? Est-ce qu'ils nous font un mini-jeu
un jeu dans le jeu?
Ça serait très méta.
Oui, je pense que ça serait très spécial.
Oui, mais si c'est Sega qui s'en occupe, ça pourrait être rigolo aussi.
Ce n'est pas faux.
Et là, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bourde, c'est que dans conducteur, on parle aussi des nouvelles de la gamme Sega Ages. Donc ils ont annoncé 6 nouveaux jeux qui sortiraient sur l'eShop de la Switch. Donc ça sera des portages un peu améliorés, parce qu'on sait qu'AM2 retravaille toujours un peu les jeux pour la Switch. Mais j'ai oublié de noter la liste des jeux, donc je ne sais absolument plus.
Et bien de mémoire.
Je vais faire appel à ma mémoire. Attends, je me concentre très très fort. Hein.
C'est vrai que ne bouge pas. J'aurais pu ouvrir la news sur mon téléphone avant.
Et pendant ce temps, c'est pas grave. Si
ça arrive à tout le monde.
Un des trucs qui est cool.
En attendant qu'on revienne sur la liste de Switch, il y a dans la conférence d'ouverture du Sega Fest, tout était streamé d'ailleurs, toutes les conférences. Il y a Toshihiro Nagoshi, donc un des pontes de Sega, mais également le fondateur du Ryuga Gotoku Studio et créateur de Yakuza, qui s'est exprimé brièvement sur l'avenir de la série. Et il a expliqué qu'il fallait s'attendre à de gros changements entre ce qu'on a connu jusqu'à présent dans la série et le futur Yakuza 7. Il a précisé quand même que ça sera toujours un jeu d'action-aventure, mais qu'il y aurait de gros changements et que ces changements se ressentiraient aussi bien dans le gameplay que dans la narration. Alors la narration, on sait qu'il y a un nouveau héros qui s'appelle Ichiban Kasuga, qui lui est
il est venu pour botter des culs et prendre des notes.
Kazuma Kiryu, c'était le le haut de la chaîne alimentaire des Yakuza, il a été big boss de son clan.
Mais il est mort ou pas, sans spoiler?
Non, non, il est...
Ah. Non, non, mais je sais
sans
pas.
Spoiler. Non,
mais
non,
moi
je veux pas savoir.
C'est important.
Non, parce que tu dis qu'il y en a un nouveau dans le set, donc...
Oui, oui, non, il change de personnage.
Qu'est-ce qui s'est passé dans le
set? Parce qu'en fait, la saga Kazuma Kiryu prend fin avec Yakuza 6.
D'accord.
Donc, si vous voulez savoir ce qui lui arrive, faudra terminer Yakuza 6.
On va jouer aux 7 épisodes.
Et donc, le nouveau héros, Ichiban Kasuga, lui, c'est un peu un loser, en fait. Donc, lui, il est vraiment tout au bas de la chaîne.
Ouais, mais avec un nom pareil, il va,
un loser
finir,
magnifique.
Il va finir en haut. Le mec, il s'appelle Ichiban.
Ichiban, Ichiban ça veut dire numéro 1.
Il va finir au
japonais.
Sommet dans number Yakuza 13.
One. Et bah, on sait pas, mais en tout cas, lui, Kazuma Kiryu est très sérieux, très stoïque. Alors que bah, Ichiban Kasuga, lui, est plus, plus rigolard, plus ironique, etc. Donc le ton sera différent. On sait que dans les Yakuza, jusqu'à présent, la campagne principale était très sérieuse. Et tout ce qui était un peu plus, à quelques exceptions près, tout ce qui était plus décalé, plus humoristique, c'était dans les quêtes annexes et dans les activités.
Comme le poulet gestionnaire d'immobilier, c'est
voilà,
ça.
Voilà, par exemple. Là, il disait que le côté humoristique se ressentira plus dès la campagne principale, en fait. Et justement, je me demande si le carton du poulet, parce qu'au Japon le poulet dans Yakuza 0, ça, non, ça, c'était drôle, mais il y a tellement de trucs rigolos dans Yakuza, c'est pas sorti plus que ça. Mais c'est quand le jeu est sorti en Occident, tout le monde s'est pris de passion pour ce poulet pour ce poulet gestionnaire
avec les mêmes
et donc ils
se
sont dit, ah, c'est peut-être un moyen peut-être de faire ressortir la série plus en Occident. Donc je pense qu'ils vont peut-être accentuer un peu le côté humoristique, mais en tout cas oui, il y aura des changements dans Yakuza 7. Généralement les nouveaux Yakuza sont présentés juste avant le TGS. Donc je pense que fin août, début septembre, je pense qu'on commencera à savoir un peu plus de quoi il retourne. Mais donc, pour en revenir à Sega Ages,
Alors attention, il s'est rappelé là.
Il
s'est rappelé grave.
Alors Shinobi.
Ouais.
Wonder Boy.
Ouais.
Fantasy Zone.
Ouais.
Puzzle and Action Ichi Dent Air.
Ouais, bof.
Herzog's Vie.
Ah oui.
J-Lock Air Battle.
Herzog's Vie, c'était un jeu de stratégie de mémoire, c'est
je crois, oui.
Vous la sentez la hype là ou pas?
Non.
Parce que moi je la sens pas non plus. Hein.
Bah, c'est bien de faire revenir des jeux comme ça. Il y a eu Alex Kidd il y a pas très longtemps aussi.
Oui, ouais. Qui est sorti. Ouais.
Voilà, pour les vieux vieux.
Alex Kidd est sorti chez nous en même temps que. Ils étaient deux. Il y a deux jeux qui sont sortis en même temps. Et au Japon, là, ils s'apprêtent à recevoir Virtua Racing. Et Virtua Racing, ce qui est intéressant, c'est que pour ce portage Twitch, il y a un mode 8 à 8 joueurs en local. Donc c'est du, il va falloir avoir
ça,
un écran,
bien, ça, hein.
Il va falloir un écran de télé assez grand pour
mais
pouvoir accueillir
tout le monde. Je me souviens qu'à l'époque, Sega nous avait invités chez eux pour qu'on y joue à plusieurs, il y a plusieurs rédactions, pour qu'on le teste vraiment en live à plusieurs.
Ah, sur les bornes d'arcade?
Ouais. Non, 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 c'était sur la Mega Drive à l'époque. Oui, c'est ça.
Quelle classe?
Tu pouvais pas jouer à plusieurs sur Mega Drive à l'époque.
Si, il y avait plusieurs télés, machin. Ils avaient réussi à le mettre en.
Ils avaient fait une LAN, de Mega Drive.
Ouais. Tu te souviens qui avait gagné?
C'est qu'il y a souvent des versions de jeux chez Sega, que ce soit au Japon ou aux States, des fois où il y avait des connexions internet ou des possibilités de multijoueurs qu'on n'avait pas en Europe, malheureusement. Je pense notamment à Sega Rally qui avait une qui avait un spécial Internet Connection ou je sais plus quoi, ou Edition.
Oui, c'est vrai. Tout à fait.
Et même Daytona aussi au passage. Donc
exact.
Et
donc vous pouvez pas de hype pour ces six jeux là.
Pour terminer
pas trop
avec
mais merci quand même.
Non, mais faut qu'il passe à la Saturn rapido,
c'est
la Dreamcast quoi, parce que là
ce qui est paradoxal, c'est que ils avaient dit récemment, enfin les gens en charge de Sega Ages avaient déclaré que ça y est, ils avaient réussi à émuler la Dreamcast sur Switch. Donc quand tu dis ça, bah, tu dis, bon, bah, tu peux t'attendre peut-être à ce que parmi les prochains jeux, ils annoncent de la Dreamcast. Bah, non.
Alors, ils gardent peut-être l'annonce pour un gros moment opportun.
Bah, là, c'était quand même opportun.
Oui, non, mais le temps qu'ils aient quelques cartouches et un planning aussi un peu plus sécurisé.
Un peu plus étoffé, n'est-ce pas?
Et on sait que la Saturn, en plus, là, elle fête son anniversaire, ses 25 ans.
C'est 25 ans cette année.
25 ans au Japon. C'était le moment. Mais on sait que la Saturn a émulé, c'est quand même plus compliqué. L'architecture de la
console. C'était une chiure.
L'architecture de la console est assez complexe.
Même pour faire des copies de sauvegarde de tes jeux, c'était gravé à l'envers ou je sais pas quoi. Enfin, c'était un bordel pas possible.
J'ai déjà joué à un jeu gravé sur Saturn sur une console pas pucée.
Ça marchait pas.
Non, mais sérieusement, fallait démonter la console.
Hein?
Ouais, fallait retirer le capot. Et fallait faire un swap.
Fais une manip de swap.
Ah oui,
pas fallait
faire un swap, mais genre beaucoup plus compliqué que sur PlayStation.
Mais nous, parce que sur PlayStation, tu mettais un cure-dent, c'était réglé. Quoi.
Mais nous, c'est ce qu'on fait. On avait des disques de démarrage pour les versions presse.
Ouais.
Non, pour les versions presse.
Tu l'as toujours?
On avait un disque de démarrage.
Vas-y,
dans
sa cave.
Avant de lancer le CD normal, il fallait swapper. Ouais,
bah vas-y, mais retrouve-le.
Oh, je sais plus où là. Je crois que
tu vas venir chez toi.
Je crois que je l'ai jamais gardé.
Oh non.
J'en sais rien.
Oh non.
Ah, parce que je savais même pas qu'il y avait des disques de swap officiels. Tu vois, tu viens de m'apprendre un truc. Mais tu savais, toi, Thomas?
Tu viens d'en parler. Tu viens d'en parler, ça m'est revenu, sinon j'avais complètement zappé.
Mais donc sur Saturn, en tout cas, c'était bien relou pour jouer à des jeux gravés. Mais c'était possible quand tu prenais le risque.
Bah, c'était la protection en fait, hein, du truc, hein, tout simplement. C'était le truc officiel que tu mettais, ensuite tu mettais le jeu.
Ouais, bah c'est
fallait
ça.
Fallait passer
ouais.
une espèce de sécurité.
Oui, bah fallait mettre un jeu officiel avant, attendre que. Tu sais, il y avait plusieurs mouvements de lentilles.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Et fallait te repérer au son.
Ouais,
pour
comme sur PlayStation.
Exactement,
sur PlayStation, t'attendais. Ouais. Le moment où le logo PlayStation sortait,
oui, voilà.
écran noir, tu dis oh putain, c'est le moment, voilà. Hop là, tu
retires
en place.
Swap.
Tu mettais un cure-dent pour empêcher le capot.
J'avais trouvé un truc de ouf. C'était pas un cure-dent, j'avais un ressort.
Un ressort,
qui faisait pile la bonne taille.
Coup,
donc je pouvais fermer, ouvrir comme je voulais et changer mes disques comme ça à la volée. Même pendant le jeu, je pouvais faire ce que je voulais. C'était surpuissant.
Nous, c'est ce qu'on
faisait
aussi.
Je sais même pas d'où il sortait ce ressort, mais
je connaissais pas le coup du cure-dent, ouais. On swappait au démarrage, mais sans insérer quoi que ce soit dans la console en fait. Pour des jeux imports et des trucs.
Mais fallait
ça.
Rester appuyé sur le truc du capot, donc c'est.
Tu sais, t'avais un petit truc en plastique qui venait s'enfoncer dans le truc pour indiquer que le capot était fermé. Et donc le cure-dent ou le ressort, ça empêchait le. Ça donnait à la console l'impression d'être fermée, alors qu'en fait elle était encore ouverte.
Oui, j'avais ça sur PS2 pour les jeux imports aussi.
Ouais, alors sur PS2 c'est compliqué. Moi j'avais le Swap Magic, tu sais, avec la petite carte qui.
Alors c'était pas PS2, c'était la PS2 d'ailleurs. C'était le modèle un peu plus slim.
Quant au piratage.
Ou pas?
Ça m'a servi pour l'import. Sauf sur Saturn où j'ai essayé un jeu gravé pour voir si ça marchait.
L'import et le fait de préserver tes versions pour éviter qu'elles tournent trop souvent, pour pas les user, pour pas foutre tes doigts dessus, pour pas foutre tes cheveux dessus, pour pas foutre de la poussière dessus, pour pas foutre.
En fait, pour pas utiliser la console du tout.
Non, juste les jeux.
Ça sert à rien, en fait, je la laisse dans la boîte.
Parce que les lentilles, elles aimaient pas trop ça, les jeux gravés.
C'est vrai.
Quant à le Dreamcast.
Et donc, oui, pour finir avec le Sega Fest, donc c'était.
C'était la fête.
Il y avait des annonces, il y avait des animations, mais il y avait aussi beaucoup de streams. Il y avait aussi un musée Atlus, enfin un musée Persona. Pour les visiteurs, il y avait des choses à voir. Et donc, je parlais de stream. Il y en avait plusieurs thématiques. C'est là où les jeux Sega Ages ont été annoncés. C'est là où il y a eu des nouvelles de Sakura Taisen, etc. Mais il y a aussi eu, pour les 25 ans de la Saturn, justement,
la teuf du siècle.
Un stream, je veux dire, un petit événement, une petite conférence spéciale. Avec Segata Sanchiro. J'espère que Poufy a pu récupérer le truc, parce qu'il s'est passé un truc. Je pense que les cieux se sont ouverts. Voilà. C'était incroyable. Donc...
Mais il a pas vieilli, le mec.
Mais non, c'est un ninja, ce mec. Laisse tomber.
Mais c'est un truc de ouf.
Non, mais il se teint les cheveux, c'est pas possible. Hein.
Ouais, oui, il se teint les cheveux. Segata Sanchiro en personne, qui est venu sur scène avec Takenobu Mitsuyoshi, la légende.
Évidemment.
Le compositeur de Sega, qui est aussi le chanteur du thème de Daytona USA, qu'on adore chez Gameblog.
Non, mais il se teint les cheveux et les sourcils, hein, je le dis. Hein.
Et donc, ils ont chanté tous les deux avec Sonic à côté. Le thème de Segata Sanchiro.
Mais c'est ça, c'est la classe.
Il y a 25 ans, génial. Il a pas vieilli, mec.
Mais je t'ai dit, c'est un les cheveux, c'est pas possible. Mais regarde, Sonic, il a pas
vieilli.
Il a
70 balais là.
Oh, il doit plus être tout jeune.
Ah, mais ça conserve le jeu vidéo.
Non, mais c'est un truc de fou.
Pas de le dire.
Puis il y a toujours le groove en plus, regardez là. Si vous voyez, si vous êtes premium, vous voyez qu'il a.
T'as vu ses cheveux en bas à droite là.
De
les cheveux. Pour ceux qui peuvent regarder.
Non, mais j'en reviens pas.
C'est juste surréaliste.
Mitsuyoshi, on dirait qu'il est plus vieux en fait.
Il a la meuf fort, Segata.
Ah, bah c'est clair.
Mais Takenobu Mitsuyoshi, tu te rends compte qu'il vit pour ce genre de moment. C'est genre, il a l'air tellement heureux.
Ah, mais il est à fond sur la vidéo.
Mais même, j'ai vu des photos de lui au Sega Fest, il accueillait les gens à l'entrée et tout. Enfin, le mec, il est trop content. C'est
ouais, on espère que tu arriveras à le croiser où tu sais et que tu auras l'occasion de.
Alors, bon, on va pas faire de mystère, hein, parce que pour le coup, les gens vont se faire des idées. Mais
non.
Je vais au TGS ça cette année.
Non, enfin, si tout va bien, en tout cas.
Daytona USA 3, ça y est, voilà, on vous l'annonce. Non.
Tu lui taperas dans le dos et tu diras que c'est un dieu vivant. Et puis voilà.
Et je vais essayer. Je sais qu'il est toujours là, donc je vais essayer de le croiser pour qu'il nous fasse un petit.
Il a l'air tellement sympa.
J'ai vu qu'un internaute français qui était au Sega Fest a croisé Takenobu Mitsuyoshi devant le Sega Fest et il lui a chanté Daytona rien que pour lui. Donc visiblement il doit pas être dur à convaincre pour le faire.
Putain, sympa,
donc si on pouvait
tu vas faire le meilleur vlog de tous les temps.
Bah oui,
ça va vlogger à fond.
Si j'ai Takenobu Mitsuyoshi qui nous fait un petit acapella sur Daytona.
Bonjour Gameblog.
Je peux être tranquille.
Daytona Gameblog, ça fait trois syllabes à chanter, ça devrait aller.
Facile à chanter, tu connais.
Et j'ai l'âge de Segata Sanchiro, donc qui s'appelle de son vrai nom.
T'as le même âge que lui.
Ah ouais, c'est ce que j'avais compris.
Ah non.
69.
Donc Hiroshi Fujioka qui a, attention, 73 ans.
Ah ouais. 73 ans, mais regardez comment il bouge. Bah, là, 73 ans,
mais c'est la puissance de Segata Sanchiro, tu vois.
Exactement.
T'es investi de la puissance divine. Non,
je veux dire, à 73 ans, si je bouge encore comme ça, mais je suis.
Mais tu sais qu'au Japon, ils font des robots très très réalistes. donc moi je dis ça, mais. Bon.
Regardez Takenobu Mitsuyoshi, il est tellement. Il est tellement heureux.
Bah, s'il est encore là dans 50 ans, peut-être qu'on se posera des questions, effectivement.
Mais non, on sera plus là. Enfin, moi je serai plus là, je pense.
Jouer à la Saturne, ça conserve.
Ouais.
Bah carrément, ouais. S'éteindre les cheveux aussi, ça conserve. Voilà,
j'avais envie de partager ça avec vous pour finir sur ce Sega Fest, parce que c'était quand même un grand moment.
Mais tu crois que c'est une perruque ou pas? Bon allez, j'arrête. Le boulet. C'est super pour le Sega Fest, c'était un gros morceau, mais merci Romain.
Un bel event, j'espère que Sega finira par nous y envoyer.
D'accord, on ira tous au Sega Fest l'année prochaine.
Ça serait chouette.
On ira pas tous au paradis, mais au Sega Fest.
Il y avait des médias
invités.
Des médias invités chez les anglo-saxons.
D'accord.
Donc voilà,
alors qu'ils en ont rien à foutre de Sega, comme chacun sait.
Bah, la Mega Drive, en Angleterre a très bien marché. Hein, donc,
ouais, t'es sûr de ça?
C'est peut-être pour ça.
Mais tu sais que Sega c'est plus fort que toi, c'est sorti en France. Hein,
oui.
De base. Hein.
Bah, voilà. C'est sorti que chez nous d'ailleurs.
Bah, ouais. Et pas ailleurs, t'es sûr?
Ah, certain, ouais.
Ok, je vais vérifier tout à l'heure.
Au States, c'était juste le mec qui gueulait Sega à la fin des pubs. Ça faisait Sega! Ouais. Et c'est ça qui est resté dans l'esprit américain.
Quelle classe. Toujours le bourrinage intense. Et bien après ce deuxième thème, on va passer au troisième, n'est-ce pas?
Oui.
Et là, je regarde le très roux Thomas P.
Eh oui.
Qui va nous parler de...
Yoshi's Crafted World.
Exactement. Et par contre, attends, il faut absolument que...
Oh non. Parce que évidemment, vous avez en fond, on a choisi de vous mettre Yoshi's Story pour illustrer un petit peu le test de la semaine. Yoshi's Crafted World.
Voilà, tu vas te faire polluer ton test.
Qui vient donc de sortir sur Switch. Le test est disponible évidemment sur Gameblog. Alors on va revenir un petit peu sur cet épisode qui avait été annoncé pendant l'E3 2017 et
exact.
Qui a été un petit peu retardé en fait parce qu'il y a eu a priori quelques complications pendant le développement puisque au départ la promesse c'était de pouvoir revisiter tous les niveaux dans un sens et dans l'autre un petit peu n'importe quand, en tout cas c'est ce qu'on pouvait imaginer quand on a découvert le premier trailer du jeu. Finalement c'est un petit peu plus compliqué que ça. Alors ça reste un jeu de plateforme évidemment,
exact.
Très classique, ça respecte tous les codes de la série des Yoshi. C'est un jeu qui est une fois de plus signé Feel Good, donc qui s'était occupé de Woolly World sur Wii U il y a quelques années.
Qui est très bon d'ailleurs.
Le très bon Woolly World, exactement. Mmh. Et là pour le coup la thématique ça n'est pas pelote de laine et compagnie, c'est autour du carton comme son nom l'indique. Vous avez l'impression en fait d'incarner Yoshi dans des décors qui ont été bricolés par des enfants qui avec trois fois rien font des décors, des jungles.
Des enfants
merde.
Super ingénieux alors. Hein, parce que
ah oui, non mais évidemment c'est ingénieux. C'est...
Quand tu vois les dessins que je faisais quand j'étais gamin, on est très loin de ça. Hein.
Des enfants un peu plus doués que vous a priori ouais. de leurs 10 doigts.
Mais grave.
Et bah, ça donne évidemment une direction artistique très très particulière qui fonctionne vraiment super bien.
Ah oui, moi j'adore.
C'est enchanteur, ça vous plonge dans un espèce d'état de grâce et de béatitude un petit peu enfantine.
Ah carrément.
Ah carrément.
Ouais. Oh, non mais j'avoue que tu exagères jamais toi, c'est ça. Bah, va, c'est...
Thomas il jouait à genoux avec un juste sur lui comme ça.
Non mais vraiment on se sent bien
en jouant
à Yoshi's Crafted World, sachant que vous avez tous les défis auxquels la série nous a habitués, c'est-à-dire que bah, comme on vous en parlait avec Traz pendant le super rétro dédié à Yoshi's Island, ce qui est rigolo dans les Yoshi, c'est d'aller chercher le 100%, donc trouver les 20 pièces rouges, récupérer et finir le niveau avec les vainqueurs et surtout trouver les fleurs qui sont cachées un petit peu partout dans les niveaux. Sachant que la plupart du temps, il faut quand même vraiment bien fouiller pour réussir à tout découvrir. Et bah, cet épisode ne fait pas exception. Sachant qu'une fois que vous avez terminé les niveaux dans un sens, on vous propose de les faire à l'envers. Donc on inverse complètement les décors. Et là, vous avez une autre mission qui est de retrouver à chaque fois les trois petits Pucci. Donc les chiots de Pucci, le chien qui est là depuis le premier épisode. Et pour le coup,
Pucci.
Oui, Pucci, ouais. Il faut que je vous laisse, ma planète a besoin de moi.
Exact.
Celui-là même. Et bah du coup ça vous oblige en fait à scruter les décors puisque les Tipucci sont cachés vraiment dans l'arrière-plan.
Tiens, hop là.
Et c'est là en fait qu'on se rend compte que l'une des forces, ou en tout cas l'une des particularités de Yoshi's Crafted World, c'est que vous avez plein de trucs à trouver en fait dans les décors, que ce soit à l'arrière-plan ou au premier plan, puisque en plus de tous les défis qu'on vient de vous lister, de faire les stages à l'envers pour retrouver les Tipucci, vous avez aussi un robot qui est présent dans chaque monde qui va vous demander de récupérer des items qui sont cachés dans les décors. Donc ça va être une occasion de plus de refaire les niveaux pour essayer de découvrir où sont planqués les objets en question. Des fois c'est super compliqué, il y a certains objets qui vont faire rager parce que tu fais le niveau 5-6 6 fois en regardant vraiment au loin tout ce qui se passe
et tu
tombes pas dessus parce que des fois il faut se placer vraiment à un endroit très précis pour voir le truc apparaître. Mais du coup ça donne beaucoup de choses à faire. La durée de vie est vraiment conséquente. Moi j'ai mis une trentaine d'heures pour le finir à 100%. Donc il y a, vraiment de quoi faire. Le seul problème c'est que du coup on refait tout le temps un petit peu les mêmes niveaux en fait, puisque tu vas les faire dans un sens, tu vas les faire à l'envers et ensuite tu vas les refaire à l'endroit pour trouver des items. Des fois t'as plusieurs items dans le même niveau, mais comme tu peux les récupérer qu'un par un, tu vas revenir 3-4 fois dans un niveau en question. Et même s'ils sont super chouettes, même si les décors sont vraiment enchanteurs,
c'est magnifique hein. Enfin moi j'y joue aussi un peu en ce moment, putain, je trouve ça super beau, mais bien plus.
Je trouve splendide aussi.
Bien plus sur la console Switch que sur l'écran de la télé.
Que sur la télé.
Ouais. Oui, ce qui est normal en même temps.
Le seul petit problème en portable, c'est que le framerate est pas aussi fringant que lorsque
mais
la console est dockée.
Mais c'est vrai,
mais on profite de l'ADA. En plus, les mondes en fait sont très petits, c'est-à-dire que dans chaque monde, vous avez 2 ou 3 stages grand maximum, et à chaque fois, on change de thématique. Donc, on va passer de un stage sur l'eau où il y a une bataille navale à quelque chose de très japonisant dans un temple japonais avec des masques déguisés en ninja. On parcourt vraiment plein d'environnements différents. Je sais pas si tu l'as essayé à deux, Traz, mais c'est super chouette en local parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont pensées pour pouvoir jouer avec un ami ou avec ses enfants. Ouais, pour le coup, si vous avez des gosses que vous voulez jouer à un jeu qui les prend pas pour des débiles, Yoshi's Crafted World, ça marche vraiment bien. Il y a plein de choses à faire. Vous pouvez le picorer un petit peu à votre rythme. Après il y a évidemment quelques bémols. On a parlé de la redondance de certains trucs. Ah là voilà, Poufy vous montre comment on récupère justement des items cachés dans le décor. Là c'était un zèbre qu'il fallait récupérer.
Faut viser avec le Joy-Con ou c'est ça se fait au stick?
Ça se fait au stick. Alors, oui, on a oublié de le préciser, mais évidemment comme c'est un Yoshi, on passe son temps à lancer des œufs en fait, à gober des ennemis et à lancer des œufs. Et alors en fait pour le coup vous avez un système de visée qui fait que si vous visez un ennemi qui est sur le même plan que vous, de toute façon vous allez le voir en surbrillance. Et si vous essayez de viser l'arrière des décors, vous allez voir aussi l'élément, ce qui fait que vous n'avez pas à gérer la profondeur en fait des tirs. C'est le jeu qui
il est sur le même plan mais en fait qui va derrière.
Le jeu
va derrière.
Comprend lui-même si tu veux viser à l'arrière. Exactement. Ou sur le même plan. À de très rares exceptions ça marche tout le temps super bien.
Oui.
Et voilà, l'un des points qui m'a vraiment posé problème en plus de la redondance des niveaux, c'est vraiment la bande son qui pour le coup
c'est vrai. Il y a des problèmes de bande son chez Yoshi?
Oui,
parce que moi j'ai l'impression que ça se passe bien. Non,
bah, d'ordinaire ça se passe plutôt bien, mais là en fait on a un thème principal qui est bon, sympathique tout au plus.
Ça ressemble un peu à ce qu'il y a là ou pas?
Non,
parce que...
mais non, c'est pas ça. Arrêtez de relancer Trace s'il vous plaît. Cette chronique est en train de retrouver un peu de sérieux quand même. Et...
exactement.
Et là c'est n'importe quoi. Non, le problème c'est que le thème principal il est recyclé à l'infini. Il est
ad nauseam,
exactement comme diraient les latins.
Exact.
Il est décliné sous toutes ses formes. Alors évidemment à chaque fois il s'adapte un petit peu en fonction de l'univers dans lequel vous êtes, mais c'est presque tout le temps le même. Non, putain
toi ça
thème.
Te gêne plus, mais moi je m'en fiche un peu parce que toi t'es un vrai mélomane.
Tu verras quand tu seras au bout du jeu, que tu lances un niveau et que tu te dis ah putain encore.
Ça fait vieux ça de faire ça. Ça faisait longtemps que
Ouais, c'est sûr. Moi, c'est pas ce genre de truc qui me gêne, j'avoue, mais après, bon.
Sur le long terme, franchement, il y a des moments où ça m'a fait soupirer parce que quand tu recommences le même niveau pour la 3 ou 4ème fois pour récupérer des trucs, t'entends la musique qui démarre et là tu te dis oh non, c'est pas vrai.
Et tu peux pas l'enlever la musique, je me souviens plus. Non. Pour laisser que les sons.
Tu peux couper le son de la télé.
Non, mais je veux dire, garder que les sons du jeu.
Bah, tu sais, c'est Nintendo, la plupart du temps, t'as pas le choix de changer quoi que ce soit. Ils estiment que la balance entre les bruits et la musique est parfaite, que la difficulté a pas été modifiée non plus. Donc, ça, c'est vraiment un gros regret. Et c'est, moi, ça finit par me plomber un peu.
Ça t'a tapé sur les nerfs.
Heureusement, il y a quelques stages qui optent pour une.
Exact.
Oui, ils sont lâchés un petit peu sur pas mal de trucs. Il y a des stages défis en fait qui proposent un gameplay complètement différent. Vous allez sauter dans un immense robot Yoshi, vous allez grimper sur un avion que vous allez contrôler en allant de l'avant vers l'arrière.
On a vu une sorte de course-poursuite tout à l'heure.
On a vu une course-poursuite en voiture. C'est une voiture solaire qui effectivement faut la garder sur la piste et éviter les zones d'ombre pour essayer de dépasser un petit peu tout le monde.
C'est un jeu très écologique en fait.
C'est assez varié.
T'as du carton,
mais bon, au niveau du défi, c'est pas forcément le plus compliqué de la série. Risque et beaucoup dire parce que les Yoshi sont pas forcément des jeux très très compliqués. Celui-là est pas dans la moyenne haute hein.
Ceci dit, t'as passé un bon moment parce qu'une trentaine d'heures pour tout faire, c'est bien quoi. C'est quand même raisonnable.
Je suis resté dessus. Pour le coup il y a quand même vraiment de quoi faire. Et surtout c'est très sympa à jouer à deux. Et c'est un jeu que je conseille plutôt si vous êtes du genre à picorer un petit peu. C'est-à-dire que tu fais des stages de temps en temps pour pas être vraiment trop saoulé. Et si au pire, vraiment, vous n'y arrivez pas, il y a un mode assisté qui permet à tout le monde de vraiment s'en sortir, puisque le mode assisté vous permet de planer un petit peu à l'infini. Surtout, il vous donne des indices sonores quand vous êtes à l'approche, par exemple, d'une fleur qui est cachée. Parce qu'il faut vraiment, vraiment avoir le côté presque psychorigide de fouiller absolument tout ce qu'il y a dans les niveaux. Ouais. Si vous êtes allé à l'école des Donkey Kong Country, vous êtes plutôt bien paré. Donc, ça, voilà, ça donne une bonne rejouabilité, mais il faut peut-être pas trop en abuser non plus. En tout cas, voilà, c'est. Oui, effectivement, j'ai passé un bon moment. C'est surtout la direction artistique et le gameplay de la série qui fait que
je le trouve magnifique.
On s'amuse quand même bien et vraiment ça à mettre entre toutes les mains parce que c'est.
Et puis Yoshi, quoi, voilà, c'est tout.
C'est mignon, mais jamais débile. Tout ce qu'on voit, en fait, j'ai oublié de le préciser, mais quand on fait les décors.
Tout ce qu'on voit est vrai.
Quand on fait les niveaux.
D'une histoire vraie.
En verso, on voit l'envers du décor, justement. C'est-à-dire que là, on est en recto, donc on a l'impression, effectivement, que tout est bien agencé. Tout fait sens, etc. Et dès qu'on retourne les niveaux, on voit que tout a été skinné d'un côté. En fait, derrière, c'est vraiment
du carton
brut, des bouteilles, des pailles. On voit un petit peu comment tout ça a été bricolé.
Un sacré travail.
Et c'est super chouette de voir ça parce que ça donne.
Qu'est-ce qu'on avait dit à propos de faire sens, Thomas?
Bah que je fais ce que je veux, est-ce que tu vas pas
me
relire à l'oral
de comment?
Espèce de dictateur.
Oh putain, un dictateur,
un dictateur des mots.
Oh la vache.
Donc voilà, c'est parfait. Un bon jeu pour génial. Le coup, que je conseille aux amateurs de plateforme, mais qu'il faut pas non plus saigner ou il faut peut-être pas en attendre plus que ça. Il s'est pas hissé parmi les sommets de la série.
D'ailleurs, t'as mis 7, hein, si
oui,
je
voilà,
bien.
Oui, voilà, j'ai mis 7 parce que c'est
12,
un bon
mais
jeu,
bon,
mais redondant et peut-être un brin simple au vu des standards de la série. Après, je pense qu'il y a eu des complications, qu'ils ont changé un tout petit peu leur fusil d'épaule pendant le développement et que le résultat n'est pas exactement ce qu'ils avaient en tête au départ quand ils ont commencé à présenter le jeu.
Je pense aussi parce qu'il a mis du temps à arriver quand
oui,
même.
Oui, comme on l'a vu au début, Puffy nous a
Nintendo,
montré
l'annonce
de l'E3 2017. Voilà, ouais, il était annoncé en 2018 et finalement bah là il est sorti fin mars 2019.
Exactement.
Donc voilà, Yoshi's Crafted World, une fois de plus signé Feel Good. Et exact. Qu'on vous recommande, mais pas si chaudement que ça, quoi.
Après, bon, sur Switch, c'est quand même un très 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 bon jeu.
Mais vous voulez de la plateforme 2D classique, effectivement, vous allez largement y trouver votre
compte. Donc après la laine, le carton, après, je sais pas ce qu'ils vont faire, du verre peut-être, on verra.
Ah bah voilà, tu viens de spoiler.
Yoshi scoop, tu sais. Il pisse le sang à
l'épisode
la fin de
version 18 plus, super gore. La Mortal Kombat. Bon, parfait, merci Romain. Thomas, pardon.
Je merci t'en prie.
Non, c'est parce que t'as été le dernier à parler, c'est pour ça.
C'était un plaisir, hein, vraiment.
Merci Thomas pour ce fabuleux test en live de Yoshi's Crafted World qu'on vous conseille donc pour passer
une
soirée d'été et de printemps. Non, en plus, c'est un
en
jeu
plus,
frais.
C'est tiré d'une histoire vraie.
Et c'est tiré d'une histoire vraie, exactement. Alors maintenant, nous allons passer à la rubrique anniversaire, n'est-ce pas?
C'est vrai.
Plume et un peu Thomas.
Bah oui.
Alors, Plume, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cet anniversaire?
Bah, cet anniversaire, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps.
C'est vrai. T'es sûr de toi ou pas là?
Si ce n'est pour certains, peut-être le meilleur jeu de tous les
toujours,
temps.
Toujours, ouais.
C'est vrai que 2
ça avril 1994, sortait Final Fantasy VI. Au Japon, on parle toujours du 7, tout le temps du 7, le 7, parce qu'il est arrivé,
en fait,
il y avait la 3D, PlayStation, blablabla. Le 6 est un épisode bien plus important à mes yeux.
Canonique.
De toute la série. Et donc, 2 avril 1994, on avait déjà eu l'occasion sur Gameloc de vous faire un dossier très complet, hein, il y a pour les 20 ans. Là, que dire de plus sur ce jeu qui est arrivé le 11 octobre 94, si je me rappelle, en version US, et qui a mis un temps fou avant de débarquer en Europe de manière officielle. Il a fallu attendre qu'il y ait une version PlayStation de Final Fantasy VI qui arrive.
2002, je crois.
Où ils avaient ajouté des cinématiques en images de synthèse.
Absolument, il y avait une intro en images de synthèse en supplément. Ils avaient fait toute une collection, hein, 4, 5 et 6, et Chrono Trigger qui avait été adapté sur PlayStation et qui rajoutait donc des temps de chargement, et c'était donc aberrant. Mais bref.
Et la démo d'FF10 aussi avec la version.
Pour le vendre un peu plus facilement, c'était bien de mettre un jeu PS2 en plus. Donc jeu culte à tous les égards avec
à 600%.
Un environnement global qui est très changeant, plus steampunk que les précédents qui étaient très fantasy. Là on garde l'élément fantasy mais on rajoute comme je le dis du steampunk, un petit peu une atmosphère un peu Commedia dell'arte avec beaucoup de costumes on va dire exubérant pour la plupart des personnages. Il y avait quand même 14 personnages jouables au possible.
Et du mode 7.
Et du mode 7, évidemment, pour se balader sur la carte du monde. D'un système de combat qui avait fait ses preuves auparavant, l'Active Time Battle, qui était là, mais sublimé. Des spécificités pour chacun des personnages. Il n'y avait plus de système de job, mais chacun des personnages avait ses propres caractéristiques
et manips des fois, justement,
notamment pour Sabine, un des persos les plus importants, qui avait carrément des manipulations de Street Fighter pour faire survenir ses coups spéciaux
qu'on pouvait rater, du coup,
qu'on pouvait absolument rater. Il y a énormément de scènes cultes à l'intérieur, de thématiques qui sont à l'époque mais abordé de façon inimaginable. On parle de suicide, on parle de perte d'être cher,
on parle de refaire sa vie aussi, de tourner la page.
Voilà, il y a énormément de choses qui sont abordées dans ce jeu, en plus de la partie jeu en elle-même qui est déjà très bonne, avec un contenu monstrueux. Alors il paraît qu'il y avait des soucis de leveling à un moment, qu'il y a des gens qui n'arrivaient pas à le finir comme il fallait. Bref, pour moi, en tout cas, c'est le meilleur RPG de tous les temps, sans aucun problème. Si un jour, qui sait, Square se disait, tiens, peut-être le refaire.
Et si on le refaisait ?
Ça me dérangerait pas une seconde. Enfin, en tout cas, pas avec la version iOS au graphisme foireux qu'ils ont remis sur Steam par la suite.
Il était sorti sur GBA aussi, non ?
Absolument, GBA avec une traduction améliorée, parce qu'il faut savoir que le premier, c'était un seul homme qui l'avait traduit en US. Hein.
Published by Square Electronic Arts, ouais. C'est marrant.
Donc c'était un seul homme qui l'avait fait en un mois, et qui avait dû donc... turbiné, sachant qu'il avait aussi les contraintes de censure de l'époque pour essayer d'adapter certaines choses, genre oh bah tiens, on va se saouler avec du thé, un peu comme dans tous les jeux japonais à l'époque, hein.
On va se brûler avec du thé, ouais. Super.
Et oui, donc il est ressorti sur GBA, absolument, même en Europe, avec une traduction française. J'ai la version GBA qui a aussi un donjon supplémentaire. Il y a plein de choses sur la version GBA. C'est la version ultime. Hein, si vous pouvez la choper, chopez-la.
Elle est très chère, hein, attention.
Ah oui, ça y est. Ah
ouais. Là où il y a le cote énormément.
Oh là là, mais alors là, pour la choper, c'est compliqué. Je l'ai revendu la mienne personnellement. Donc voilà, et je. Avec un chara-design parfait,
il y avait tous les grands.
Où Nomura avait commencé déjà à bien travailler. Nobuo Uematsu qui signe peut-être sa plus belle BO, je pense.
Oui, mais il pensait que c'était la dernière. Enfin, il pensait que c'était le dernier FF sur lequel il allait potentiellement bosser. Donc il s'est dit, bah allez, on va se lâcher et puis allez, on va faire trois morceaux d'un quart d'heure. On s'en fout, c'est pas très grave. C'est le moment pour les sortir. Quoi.
Et donc là, on voit la cinématique créée pour la version PlayStation.
Absolument. Scénario fantastique. Tout était quasiment parfait. Supervisé par Yoshinori Kitase pour la première fois. Hein. Oui. Sakaguchi avait passé la main.
Pour la première fois, Sakaguchi n'est pas le réalisateur de cet épisode.
Ouais, il se contentait de superviser parce qu'il était passé vice-président de Square pas longtemps avant. Donc du coup, il commençait déjà à envisager d'autres choses. Bon, voilà, je vais pas vous en dire trop. Il y a plein de choses qu'on a mis sur Gameblog concernant ce jeu, parce qu'il y a beaucoup de fans ici. Thomas parlait la semaine dernière de la sortie de l'OST qui est juste ici, qu'il a ramené évidemment.
Bah oui, tant qu'à faire.
Il y a combien de temps ?
Et n'hésitez pas.
La date de quand l'édition, c'est de l'époque de la sortie du jeu.
94.
Ouais. C'est marrant parce que je me souviens de ce truc à la rédac à l'époque. Je crois que c'est Greg qui l'avait, il me semble.
Et moi, je vous conseille. Plus particulièrement ce qui me concerne, Final Fantasy VI Grand Final, qui est la réinterprétation orchestrale que j'ai toujours chez moi, c'est et dont je ne me séparerai jamais.
Quand tu l'écoutes ou pas ?
Non, parce que j'ai pas envie de me prendre des coups.
D'accord, okay.
Du coup, j'arrête de pleurer.
Et juste petite anecdote sur Final Fantasy VI qui a visiblement marqué énormément de gens. Aux États-Unis, il y a un catcher qui s'appelle Chris Sabin et son nom de famille, son nom de scène. Sabine de Final Fantasy VI.
Oui, qui est un lutteur bien baraque, justement.
Bah pour un le moine. Coup, lui, c'est un poids léger, mais il a été marqué.
Ah, c'est un moine. Un moine lutteur.
Ah bon ? Oui, il est moine.
Ah bon. Bah oui. Le débat est lancé entre est-ce que c'est un moine.
Désolé,
ou pas.
Vieux, c'est comme ça. Mais les moines sont toujours représentés comme des mecs costauds avec des chapelets à la main, hein, dans les jeux japonais. Donc voilà.
D'accord. Bon, bah c'est super.
Happy birthday FF6.
À
jamais dans nos cœurs.
À jamais dans vos cœurs de gamers, comme on dit parfois dans le monde du jeu vidéo. Eh bien voilà, je crois qu'on a fait vraiment le tour.
Et
il est l'heure maintenant du hors-jeu.
Là, tu t'imaginais qu'il y avait un jingle.
Oui, je pense qu'il s'attendait à un générique.
Ouais. Exactement.
Non, mais il n'y en a pas.
Je m'attendais à ce que vous me disiez oui, oui, et c'est moi qui vais prendre la parole.
Et pour, il en fait tomber sa feuille.
Et donc, en fait, c'est Thomas qui va nous parler du hors-jeu.
Et oui, le hors-jeu de cette semaine, c'est l'album de Lena Raine, la compositrice, entre autres, de Céleste. En tout cas, c'est pour ça qu'elle
a été. Elle t'émeut un peu, hein, Lena Raine.
Ah, bah oui, forcément, ça me fait quelque chose, Lena Raine.
Mais tu sais qu'elle chante en playback.
C'est vrai ?
Ouais.
Ah, c'est un monde qui s'écroule. Alors, qui a été. Qui a commencé à se faire connaître du grand public pour son travail sur notamment Guild Wars 2, mais qui évidemment a accédé à la célébrité avec la bande-son de Céleste, qui a été primée à de nombreuses reprises, y compris au Game Awards, puisque là vous voyez un des moments où on a eu droit à un concert, à un petit morceau en live avec notamment Hans Zimmer aux côtés de Lena Raine, qui était sur son désormais iconique clavier Roland analogique. Et là pour le coup c'est son premier album solo, donc complètement déconnecté de toute production vidéoludique. Voilà, là c'est vraiment des compositions personnelles, mais qui s'inspirent évidemment de ce qu'elle a déjà fait. On reste sur des thématiques assez électro. C'est un album donc qui vient de sortir là, il est dispo depuis le 29 mars notamment sur sa page Bandcamp. Le vinyle est épuisé depuis très longtemps, donc vous pouvez seulement l'écouter en format numérique. Et l'album s'appelle One Knowing, comme vous le montre Poufy en ce moment à l'écran. C'est 10 titres d'une électro
encore, en fait.
Assez planante. C'est vraiment des nappes de synthé la plupart du temps. C'est un album qui est construit autour de l'alternance d'un morceau instrumental et d'un morceau avec un petit peu de vocaloïde. Et bon, un peu de vocaloïde, hein, c'est pas
Tsunemiku. Quoi.
Exactement, c'est pas de la J-pop qui part dans tous les sens. C'est quelque chose de très posé dans lequel elle chante en fait une espèce de yaourt difficile à identifier. Donc on se concentre plus sur les mélodies, sur l'évolution du son en fait, que sur ce qu'elle raconte. C'est plus là pour servir la mélodie et la musique. C'est un album qui pose vraiment, si vous aimez les ambiances planantes, c'est plutôt fait pour vous. Si comme Camille vous détestez le concept, et ben passez votre chemin,
parce tout, que Camille.
Ça va être quelque chose vraiment...
Il aime les marches militaires, Camille.
Ouais,
ça limite quand même.
Je pense
musical.
Qu'il aimerait la musique de Yoshi, là,
de Yoshi Story,
hein, il me semble, hein.
C'est plus un album qui pose, un album qui laisse le temps au son de s'épanouir un petit peu, qui fait preuve de pas mal de minimalisme
quand on met l'OP.
Donc voilà, c'est une approche assez particulière. Si vous voulez passer une soirée pour vous mettre dans une ambiance assez
zénitude,
détendue, moi je l'ai écouté, tu vois, quand on s'est quitté hier, je l'ai écouté sur le retour en marchant seul dans la nuit pour rentrer chez moi. Ben ça vous met dans un certain état d'esprit, ou chez vous un soir avec un verre de whisky à la main, voilà,
un verre de Chianti,
ça pose un petit
avec
peu
modération,
son,
bien sûr.
Avec de l'encens évidemment,
oui, en l'encens si vous voulez, mais
l'encens polluant,
de l'électro planante qui fait la part belle au synthé de façon assez minimaliste.
Pitcher les poches,
exact.
Et de toute façon, c'est librement accessible sur la page Bandcamp de Lena Raine. Donc l'album s'appelle One Knowing. Vous pouvez aller l'écouter. Hein,
tout l'album est accessible, non ?
Oui, tout l'album est accessible. Les 10 pistes de l'album sont là.
Tu écoutes et tu achètes si tu veux.
Bah ouais, voilà, ensuite, tu donnes ta thune après.
Tu peux donner librement, ou tu peux continuer à faire du streaming. Non, sur Bandcamp, généralement, c'est la règle. Donc vous n'avez rien à perdre à aller jeter une oreille ou deux. Pour ceux qui iraient éventuellement en cherchant des sons proches de Céleste, il y a un morceau de milieu de l'album qui s'appelle Insomnia, qui se rapproche énormément des compositions électro de Céleste, et qui a un décalage entre la rythmique et la basse qui est assez intéressant. Voilà, c'est le sixième morceau, comme Poufy vous le montre à l'écran.
Insomnia.
Donc voilà, c'est assez sympa. Je dis pas que je le saignerai sur des semaines et des semaines, mais si vous cherchez une ambiance un peu zénifiante et planante, et One Knowing, ça marche plutôt bien.
Et bien parfait, merci Thomas. Cette fois, je me suis pas
quelle classe.
Ah, tu me remercies pas cette fois.
Merci Romain, merci Plume. Si, je vais tous vous remercier parce que le podcast est terminé, ça y est.
Quelle classe.
Podcast 493.
Bah bravo. Merci Julo. Le peuple a voulu que tu sois là.
Voilà, et j'y suis.
Et t'y es.
Et
t'as kiffé.
Je ne me suis pas caché, voilà. même si pour moi c'est.
Qu'ils viennent me chercher.
Exactement. Pour moi c'était un petit peu compliqué. Bon, j'espère que j'ai pas fait trop tiep. Et que ce podcast.
Tu fais jamais tiep.
Voilà, vous pouvez l'écouter, le voir en vidéo sans problème, sur Gameblog évidemment, sur iTunes et sur plein d'autres bidules que je vous laisse regarder comme bon vous semble. Eh bien messieurs, merci beaucoup. On se
merci
dit
à, toi.
À la
merci
semaine
à toi,
prochaine, n'est-ce pas ? Et merci à Poufy la technique. Et puis
c'est bien, Poufy.
À la semaine prochaine pour le podcast 494.
Oh putain déjà.
Salut à tous,
ouais,
jouez bien.
À plus.
Des bisous,
merci à vous.
Ciao.